Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h26, et c'est parti. Nous sommes en direct. Pardon, excuse-moi, j'en perds ma voix. Excusez-moi, pardon, oh là là, oui. Oui, on est un peu, comment dire. La nuit a été courte, on va le dire comme ça, à la rédaction, parce que beaucoup d'informations à vous donner ce matin. On va le dire, la France se réveille en crise politique, on peut le dire comme ça, ce matin, oui. Là, c'est une crise politique ouverte. Il y a eu de la colère hier soir dans les rues un peu partout en France, des échauffourées même. On va vous raconter tout ça, évidemment, ce matin sur RMC. Vous l'avez suivi dès Estelle Midi, là, vous l'entendiez dans les redifs cette nuit. Cette crise politique déclenchée par le 49-3 dégainé hier par le gouvernement pour faire passer en force la réforme des retraites. Vous avez suivi les toutes dernières informations hier sur RMC. Et évidemment, ce matin, on va continuer à largement en débattre avec vous au 32-16. Quand je dis on, c'est Anaïs Castagna.
Qui est salut là aussi. Charles, salut et bonjour Anaïs. À tous.
Salut Géraldine Demory.
Salut tout le monde.
La météo dans un instant.
Le retour de la pluie.
Ah bah, mais c'est une bien. Bonne nouvelle oui. Désormais. Voilà, on doit se féliciter quand il pleut en cette période de sécheresse. Mais évidemment, on va largement revenir avec vous ce matin sur le 49-3, sur cette crise politique. On vous pose d'ailleurs dès maintenant la question. On vous attend hein, depuis hier. On s'en parle avec Anaïs. On a hâte de vous entendre au 32-16 sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée et ce qui va se passer dans les prochains jours, ce qui s'est passé aussi hier soir dans la rue. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir faire passer la réforme des retraites en force avec le 49-3? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Ou au contraire, vous estimez que le gouvernement n'est peut-être plus légitime, il y a la perspective de ces motions de censure.
Après le 49-3, les motions de censure, oui, les oppositions ont jusqu'à 15h20 aujourd'hui pour en déposer. Trois motions ont été annoncées. L'adoption d'une motion entraînerait la démission du gouvernement et le rejet du texte. Ce qui est sûr, tu le disais Charles, c'est que la colère s'est exprimée dans les rues de plusieurs villes de France hier, avec parfois des débordements, des dégradations comme à Paris, où 217 personnes ont été interpellées.
Eh bien, c'est avec vous ce matin qu'on va prendre le pouls au 32-16, avoir vos réactions. Est-ce que le gouvernement peut tomber après ce 49-3? Parce que oui, à la perspective des motions de censure, on va tout vous expliquer. On va aussi entendre les manifestants, les Français qui sont spontanément descendus dans la rue hier pour exprimer leur colère après l'annonce de ce 49-3. Venez nous dire ce matin ce que vous en pensez. Est-ce que vous soutenez la stratégie de l'exécutif d'Emmanuel Macron de faire passer coûte que coûte cette réforme des retraites? Parce que bon, le 49-3 existe hein, dans notre Constitution. Est-ce que voilà, Emmanuel Macron a raison d'utiliser toutes les armes que lui offre la Constitution, ou au contraire, vous espérez que le gouvernement soit mis en minorité dans les prochains jours par une motion de censure? Est-ce qu'Elisabeth Borne doit démissionner? Est-ce que ce 49-3 renforce votre colère? Vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, on vous attend impatiemment ce matin et on va vous lire surtout. On va regarder vos messages, vos réactions en direct sur l'appli RMC avec Direct Studio.
Et puis on n'oublie pas nos rendez-vous dans Mon Choix ce matin à 5h10. Je vais vous parler de ces Français qui ont du mal à dormir. Un Français sur trois n'est pas satisfait de la qualité de son sommeil. C'est ce que montre une étude qui est publiée à l'occasion de la journée du sommeil. Aujourd'hui, on trouvera aussi Anthony Morel pour C'est déjà demain. Manu Le Chypre nous parlera vol de voiture dans le Chypre du jour aujourd'hui avec ce chiffre totalement hallucinant. L'an dernier, une voiture volée toutes les 4 minutes en France. Et puis dans la story sport d'Antoine Martin, on parlera des frères Thuram appelés en équipe de France. 13e fratrie convoquée chez les Bleus. On y revient dans la story sport sur RMC et RMC Story à 6h20.
Bah oui, c'est vrai, il y a deux Thuram là. Il y a Kefren et Marcus. Ouais. Il y a déjà les frères Hernandez aussi. Ça devient ouais. une équipe de fraté, l'équipe de France de foot de Didier Deschamps.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h20. Bon réveil à tous sur RMC. Alors le 49-3 va-t-il renforcer la colère?
C'est la question du jour sur RMC.
Cette réforme est nécessaire aussi sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité de mon gouvernement.
C'est l'image, ou plutôt le son, qui aura marqué la journée d'hier. Ce coup de théâtre, Elisabeth Borne, qui au milieu d'une bronca dans l'hémicycle, déclenche l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Quelques minutes plus tôt, Emmanuel Macron avait tranché. La réforme des retraites ne sera pas soumise au vote des députés. L'exécutif n'était en fait pas assuré d'avoir la majorité. Il a donc opté pour la sécurité ou le passage en force. C'est selon avec ce 49-3. Parce qu'on va le rappeler, Anaïs, ce 49-3, ça veut dire que le gouvernement engage sa responsabilité.
La réforme est considérée comme adoptée, sauf si la motion est votée. Les oppositions ont jusqu'à 15h20 aujourd'hui pour déposer des motions de censure. Motions qui seront examinées entre demain et lundi, d'après les déclarations des différents groupes et partis. Trois motions devraient être déposées, une par la NUPES, une par le Rassemblement National et une transpartisane qui pourrait être co-signée par le groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut réunir au moins 287 voix de députés. Dans une telle situation, le gouvernement d'Elisabeth Borne devrait démissionner et la réforme des retraites serait rejetée. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a indiqué que les LR ne voteraient aucune motion de censure. Mais plusieurs députés de droite se sont pourtant dit prêts à voter pour renverser le gouvernement.
Oui, pour le dire clairement, on est en pleine crise politique ce matin. Une majorité sous le choc, une première ministre affaiblie et dès hier soir, après l'annonce du recours au 49-3, des dizaines de rassemblements spontanés un peu partout en France, parfois des échauffourées comme à Paris, des feux de poubelle, des barricades, plus de 200 interpellations par exemple à Paris, mais partout en France, il y a eu des rassemblements comme ça hier soir, par exemple à Rennes où se trouvait Marion Gauthier pour RMC. Et dans l'après-midi, Marion, dès l'annonce du 49-3, de nombreux Rennais se sont rassemblés.
C'est une trahison à la démocratie, c'est violent.
Sa voix tremble presque, ses joues sont rouges, Claire arrive nerveuse au rassemblement.
Vraiment, j'ai foncé dans mes baskets, j'étais en télétravail aujourd'hui. Mon fils était à côté en train de travailler, je lui ai dit mais tu m'emmènes en bagnole, c'est pas possible, il faut qu'on tous manifeste. Si le gouvernement n'entend pas, la destruction, elle est peut-être nécessaire. Moi j'en suis vraiment là.
Grève, blocage, réforme des gars.
Je me sens méprisée, pas entendue. Si tout le monde s'arrête, à un moment donné, il se passera plus rien. Quelques jours de grève pour 2 ans, je trouve que ça vaut le coup, quoi.
Reste une crainte pour la démocratie et les prochains scrutins.
Que ça passe sous 49-3 alors qu'ils disaient qu'ils allaient aller au vote, c'est complètement révoltant. On a été voté aux législatives et en fait, on se rend compte que finalement, on nous laisse même pas ce pouvoir-là. J'espère continuer à voter, à avoir toujours cette envie, mais ça démoralise, ça démobilise.
Colère commune sous les drapeaux des syndicats qui préviennent, si elle explose, le gouvernement en a la responsabilité.
Marion Gauthier du côté de Rennes hier soir pour RMC. Je précise qu'un peu plus tard dans la soirée, d'ailleurs, ces rassemblements ont dégénéré aussi du côté de Rennes. De multiples enseignes ont été dégradées dans le centre-ville. 26 feux ont été éteints par les pompiers, a détaillé la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Et 5 personnels d'un hôtel de luxe ont été blessés aussi. Et on peut signaler 8 interpellations hier soir du côté de Rennes. Cette colère qui s'est exprimée hier dans les rues un peu partout en France. On va aussi et vous écouter, vous, ce matin au 32-16. Comment avez-vous réagi en apprenant que le gouvernement dégainait le fameux 49-3 sur cette réforme des retraites? On va accueillir Cyril, qui est dans les Yvelines et qui est chauffeur VTC. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, Cyril.
Je dis dans les Yvelines, mais peut-être que vous êtes déjà au volant, sur la route.
Non, je viens d'arrêter, parce que je recommence à 10h après, donc non, je viens de couper.
Donc là, c'est la pause pour vous, une pause avec RMC, on est là aussi, on est là quand vous bossez, mais aussi quand vous vous reposez.
C'est la seule émission audible, après c'est toutes des émissions qui sont inaudibles, avec trop de débatteurs et tout, donc non, c'est pour ça que j'écoute que vous, après...
Bon, ça c'est votre choix, mais je promets qu'il y a des super choses dans la journée ensuite sur RMC, mais c'est pas le débat de ce matin.
J'écoute après le
en podcast.
En rediff, voilà.
En mais, rediff.
Non, c'est trop inaudible, ça part dans tous les sens. C'est vous avec Apolline de matin. C'est là où on peut justement, on a plus de temps pour parler et c'est beaucoup mieux.
Eh ben allons-y. Alors parlons, Cyril. Le 49-3. Est-ce que ça vous a surpris d'abord qu'Emmanuel Macron choisisse le 49-3? Ça vous surprend
absolument pas?
Parce que hier matin,
Macron,
ils avaient l'air
confiants. Le 49-3. Macron est toujours confiant, mais c'était de la communication, comme d'habitude. Moi, ce qui me surprend, c'est surtout les médias qui continuent à croire Macron, quoi. Macron, ça fait depuis 2012, enfin, il est arrivé quand en politique 2015, qu'il fait que des 49-3. Dès qu'il sait qu'il va perdre, il fait 49-3.
Dans son premier quinquennat, il n'y en a pas eu, Cyril. Là, ce 49-3, dans son premier quinquennat, il n'y a pas eu de 49-3.
En même temps, il a eu un 49-3 pendant son premier quinquennat. La réforme sur les, je sais plus, c'était quoi là qu'il voulait faire là pour les journalistes où il fallait flouter les je sais plus qui. Il y avait eu un 49-3. En plus, il a fait sa loi en catimini à l'Assemblée quand il y avait eu un confinement ou je sais plus quoi, un couvre-feu.
Là, le 49-3, il vient du fait, et tous les 49-3 de ce quinquennat viennent du fait qu'il n'a pas la majorité absolue, mais une majorité relative sur chaque texte.
Même s'il aurait eu la majorité absolue, il l'aurait quand même fait. Il fait que des, de toute façon, il sait faire que ça, que des 49-3. Il sait faire que ça. Moi, je suis pas surpris. Il est né dans le 49-3. ce président n'est même pas un président démocrate, c'est un président autocrate qui a des tendances monarchiques. C'est pas une nouveauté, c'est pas une découverte. Il fait que de la communication. Tout ce qu'il dit, vous savez très bien que déjà demain, ça, ce qu'il a dit aujourd'hui, demain ça sera le contraire, et après-demain il dira encore son contraire.
Et donc, oui, mais alors là, Cyril,
il fait une réforme qui est déjà vite faite et mal faite. Déjà la réforme des retraites, c'était même pas le point le plus important qu'il fallait faire aujourd'hui. Il y a des choses essentielles à réformer en France, comme la justice, le système et le système scolaire. Cela ne fonctionne plus. Aujourd'hui, c'est le caprice de l'enfant roi qui va à tout prix faire une réforme tout de suite, vite fait, mal fait, pour faire plaisir à on ne sait qui. Voilà. Et c'est un peu dommage.
Et parce alors, que la France, comment vous voyez la suite,
et Cyril, à Paris, c'est devenu un pays du tiers-monde. Bah là, ça va se tiers-mondiser, la France.
Ça va s'empirer pour la France. Mais est-ce que c'est encore tenable là? Est-ce qu'Elisabeth Borne doit démissionner? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une dissolution?
Je dirais pas Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, moi, je n'en veux pas. Elisabeth Borne, c'est elle, c'est un peu la sous-fifre. C'est elle qui va porter ce que Macron ne veut pas faire. C'est comme ça que tous les premiers ministres, on l'avait eu avec Valls, bah, on l'avait eu avec Édouard Philippe.
Vous savez quoi, Cyril, voilà, bougez pas, Cyril, on va accueillir Johan qui nous appelle de la Meuse. C'est ça, bonjour Johan.
Oui, bonjour.
Alors, je ne sais pas si on dit Johan ou Johan, comme vous voulez.
Johan,
ça va. Bah, voilà, dans le doute, j'étais parti sur Johan aussi. Chef d'entreprise, oui. C'est ça? Vous êtes où dans la Meuse?
Oui.
Mais vous êtes où précisément?
Commercy, dans la Meuse.
Ok. Et vous avez suivi cette journée un peu folle à l'Assemblée? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Est-ce que c'était le bon choix? Ou au contraire, ce 49-3, bah, c'est la preuve d'un échec d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur cette réforme?
Alors, c'est exactement ça. C'est la preuve d'un échec. C'est pour moi un aveu d'échec. Alors, pas uniquement d'Elisabeth Borne. L'auditeur précédent disait qu'effectivement, elle n'est aujourd'hui que le bras armé, et encore pas si armé que ça, d'Emmanuel Macron. On a un président, en fait, qui certes a été élu démocratiquement, mais on connaît les raisons de son élection et de sa réélection. C'est quelqu'un aujourd'hui qui ne bénéficie pas d'une majorité absolue et qui, malgré tout, veut imposer à la nation, normalement représentée à l'Assemblée, ses propres décisions. Alors, dont on sait d'ailleurs, des décisions, il a changé d'avis entre-temps, malgré tout. Donc, il est en train de nous faire croire que cette réforme est la sienne, qu'il en est complètement convaincu. Il y a encore quelques mois de ça, il disait complètement le contraire. Et puis, il envoie Elisabeth Borne au front, en annonçant un 49-3, un énième 49-3, qui n'est qu'effectivement la preuve de l'échec de sa politique, de ce que les Français pensent de lui et de sa politique. Moi, j'en suis même plus à attendre une démission du gouvernement, parce qu'on a vu ce que ça donnait. Finalement, on a eu le gouvernement Castex qui a très très mal géré la Covid et puis beaucoup d'autres situations. Et puis finalement, Emmanuel Macron n'a pas écouté, puisqu'il nous met un gouvernement encore plus contesté. On va parler du Dupond-Moretti, Darmanin, etc. Et sur un sujet aussi important pour les Français, il nous envoie Elisabeth Borne nous dire que moi j'ai rien entendu, j'ai rien vu, donc je ne comprends pas que cette réforme ne soit pas votée facilement. Donc 49-3. Il va falloir que ça cesse. Alors, je vais vous dire très honnêtement, moi je suis chef d'entreprise, cette réforme en soi, je la trouve nécessaire, absolument nécessaire, mais je suis tout à fait d'avis des Français de dire qu'on en a marre de ce président et de sa politique imposée, dictatoriale, autoritaire.
C'est intéressant, Joël, vous êtes pour la réforme, mais pour vous, on la fait pas passer de cette manière, quoi.
Sur le fond, je suis pour, effectivement.
Oui, mais là, même si vous êtes pour, Johan, est-ce que vous estimez qu'elle peut encore passer, là? Est-ce que même si on va au bout?
Non. Et puis, pour tout vous dire, je ne souhaite pas qu'une réforme, même si je suis pour, je ne souhaite pas qu'elle passe de cette manière-là. Parce que je ne veux pas participer à cette méthode. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, très honnêtement, je ne crie pas non plus très haut et fort que je suis pour, dans le sens où elle n'est pas amenée correctement, elle n'a pas
été... Elle serait pas légitime, en fait. Alors,
elle n'est pas légitime, il n'y a pas de dialogue. Moi, je suis démocrate. J'ai sur les deux derniers scrutins, j'ai voté blanc parce que je me refusais à voter Emmanuel Macron. Je me refusais aussi à voter Marine Le Pen.
Mais sur le principe, vous n'êtes pas opposé à cette réforme, quoi. C'est intéressant.
Malgré tout, Johan, je
me permets de vous demander, vous êtes chef d'entreprise dans quel domaine?
Alors moi, je suis à l'import-export dans la haute parfumerie. Je travaille sur 4 continents, 35 pays. Ah oui. J'ai la chance, du coup, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, sur ces 4 continents-là.
Oui, d'avoir un peu de recul sur ce qui se passe.
Et c'est pour ça aussi que je pense que cette réforme est nécessaire.
Et juste, c'est la première fois, non, que je vous entends de bon matin comme ça au 32-16
C'est la première fois que vous m'entendez aussitôt. J'ai des intervenir un tout petit peu plus tard.
Mais je suis ravi de vous entendre réveiller comme ça de bonne heure avec nous pour réagir à chaud.
Le chef d'entreprise part pour Paris donner des cours en école de commerce.
Les chefs d'entreprise se lèvent tôt aussi avec RMC. Les chauffeurs VTC aussi, on l'entendait avec Cyril. Je vous remercie, Joanne et Cyril, d'être venus ouvrir le débat ce matin au 32-16. Merci beaucoup d'être passé, de partager vos sentiments. On entend bien que vous soyez pour ou contre la réforme. D'ailleurs, c'est presque plus la méthode aujourd'hui qui vous fait réagir, ce 49-3. Tiens, on va en parler dans un instant avec Ibrahim aussi. Je vois qu'Ibrahim a composé le 32-16. On le retrouve dans un instant. Toute la bande aussi va s'installer autour de la table pour les histoires et on continue à vous écouter au 32-16. Est-ce que ce 49-3 va provoquer encore plus de colère, renforcer la colère dans le pays? On en débat avec vous ce matin au 32-16.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
Il est 14h52, bon réveil à tous sur RMC, les trois infos à la une de l'actu avec Anaïs.
À la une ce matin sur RMC, la colère de nombreux Français après l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, colère qui s'exprime dans la rue. Des dizaines de rassemblements spontanés ont eu lieu hier dans le pays, notamment à Paris, place de la Concorde, 217 personnes au moins interpellées dans la capitale. Les explications d'Elisabeth Borne aux 20h de TF1, la première ministre dit avoir tout fait pour aller au vote, mais le compte n'y était pas, elle se dit très choquée par les huées de l'opposition à l'Assemblée. Et puis l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action jeudi prochain, le 23 mars. Elle appelle aussi à organiser des rassemblements syndicaux de proximité dès ce week-end. On va y revenir en détail dans le journal de Quentin Vinet.
Mais à 14h53, la priorité ce matin, c'est vous, au 32-16, après ce 49-3 déclenché par le gouvernement. Et on va retrouver tiens Ibrahim, qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Alors Ibrahim, je me souviens très bien, on s'est eu hier matin au téléphone, il était 5h15, quand vous avez composé le 32-16 hier, vous nous avez dit... j'espère que cette réforme va passer à l'Assemblée parce que j'en ai marre là de ce feuilleton des retraites depuis 2 mois. Il faut qu'on passe à autre chose. Quoi qu'il arrive, il faudra travailler un peu plus. Donc même si cette réforme est pas parfaite, il faut qu'elle passe et qu'on passe à autre chose. Alors ce matin, Ibrahim, est-ce que vous êtes déçu là que la réforme n'ait pas été adoptée ou au contraire vous vous dites que c'est très bien le 49-3 comme ça, on est sûr que la réforme va passer.
Là, par contre, ce matin, ça a complètement changé en fait.
Ah, vous avez changé d'avis hier.
On passe pas du tout en force comme ça. Enfin, c'est vraiment un coup de théâtre qu'ils nous ont fait. Parce que jusque maintenant, ils nous disaient il n'y aura pas de 49-3, il n'y aura pas de 49-3. Et là, sortir un 49-3, ah oui, moi, ça me met hors de moi. C'est antidémocratique, tout ce que vous voulez. J'espère vraiment que cette motion de censure, elle va être votée et qu'ils vont dégager. Parce que, alors, je ne sais pas si je suis le seul, mais Elisabeth Borne n'a répondu à aucune question de Gilles Boulot hier soir.
Ah bah non, elle est venue délivrer un message plus que répondre à des questions.
Elle n'a dit que la même chose. Oui. C'est un texte de compromis. On doit voter ce texte de compromis. Elle n'a répondu à aucune question.
J'entends bien Ibrahim, mais c'est fou comme en une journée vous êtes passé de je suis plus ou moins pour cette réforme à il faut qu'il dégage quoi. C'est ce que vous venez de dire quand même Ibrahim, c'est
bah, problème de méthode là encore.
C'est même pas le fond du texte là, qui vous dérange, c'est la méthode encore une fois.
Mais exactement, c'est eux qui poussent à l'extrême. Là, ça va être la merde dans la rue et franchement, je suis même prêt à y aller parce qu'en fait, c'est inadmissible.
Ouais, pour contester cette méthode, c'est intéressant Ibrahim d'entendre la manière dont vous avez accueilli cette annonce du 49-3 et pour vous la suite là c'est même si le gouvernement passe entre les mailles des motions de censure etc, il y aura quand même une colère dans la rue quoi qu'il arrive.
Ah oui c'est clair. Ah oui, et franchement j'en ferai partie. Alors je fais rarement des grèves. Mais alors là, par contre, c'est vraiment foutre de notre gueule, quoi.
Eh ben, écoutez, Ibrahim, on entend votre colère ce matin. Merci d'être venu la partager et d'être venu nous expliquer comment vous avez fait volte-face un peu, en tout cas, comment la méthode utilisée par le gouvernement hier vous a fait changer d'avis sur cette méthode, sur cette réforme des retraites, pardon, et sur la manière dont le gouvernement s'y prend. On va continuer à en débattre avec vous. Merci, Ibrahim. Comme Ibrahim, tiens, composez le 32-16. Venez nous dire ce matin ce que vous pensez de la méthode et de la suite. Comment vous voyez la suite des événements pour le gouvernement et pour Elisabeth Borne? Vous venez nous le dire au 32-16, mais à 14h55. Évidemment, ils sont tous là, ils attendent, toute la bande est assise autour de la table.
RMC, les histoires de Charles Matin.
Mais oui, les histoires de la bande, c'est votre rendez-vous pour se réveiller avec le sourire le matin sur RMC, avec Géraldine qui est là, évidemment, Anaïs aussi, Arthur Asquin s'est assis à l'instant. Bonjour Arthur.
Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous.
On va commencer ce matin avec Quentin Dubois, Quentin du Standard. Salut Quentin. Toi, tu voulais nous parler de cet homme condamné à verser plus de 200 000 euros à son ex-femme pour ne jamais avoir participé aux tâches ménagères.
Et oui, c'est Ivana Moral, femme au foyer espagnol, qui pendant 25 ans n'a pas pu avoir de carrière professionnelle. Elle devait élever ses filles, faire le ménage, les courses, bosser même dans les entreprises de son mari sans jamais être payée.
Ah oui.
Pendant que lui, de son côté, s'occupait des sociétés et s'achetait des propriétés ou des voitures de luxe. Elle a donc demandé une indemnisation lors du divorce pour compenser les inégalités au sein du couple.
Et alors, quels étaient précisément ses arguments pour gagner ?
Alors que le mari se fasse plaisir et s'achète plein de choses, c'est pas le problème. Le Code civil espagnol précise juste que les conjoints doivent participer aux charges de la famille, incluant les tâches ménagères, ce qu'il n'a jamais fait. Ah. Il va donc devoir payer une amende de plus de 200 000 euros, ce qui correspond à 25 ans de SMIC espagnol.
Bah, c'est très bien.
Ah, ok. Il y a le verdict de la justice espagnole et le verdict de Castaner.
Évidemment. Non, mais les Espagnols, en Espagne, ils sont très avancés sur ça, évidemment.
Ah oui, donc vous estimez que vous méritez un salaire, c'est ça pour
moi, en l'occurrence, non, parce que j'ai pas ce problème à la maison, mais on peut comprendre, oui.
Surtout si elle a travaillé en plus dans l'entreprise.
Bien sûr. Bon, je sens qu'on va pas trancher ce débat tout de suite. Je me tourne vers Arthur Aska, drôlement silencieux sur ses affaires de tâches ménagères.
Moi, je passe l'aspirateur, je fais tout. Je descends toujours les poubelles.
Ah ben ça, c'est la tâche du mec en général. Alors, je me méfie de ton discours, Arthur Aska. J'attends de
voir. Bon, en attendant, vous vous engueulerez en rentrée. J'ai envie qu'Arthur nous parle de cet étrange phénomène.
Oui, ça se passe dans des restaurants au Japon. Vous savez, les restos de sushi avec les tapis roulants. Les plats défilent devant les clients qui se servent à volonté. Ouais, moi aussi, je kiffe ça. Eh bien, trois jeunes ont été interpellés à Nagoya. Ils sont accusés d'avoir léché des plats et les mets et aussi des pots de sauce soja, puis de les avoir remis sur le tapis roulant. C'est absolument ignoble. Et c'est un phénomène qui inquiète l'archipel nippon. Il a même ses mots-clés sur les réseaux sociaux. Hashtag sushi terro ou hashtag sushi terrorisme. Les farceurs dégueux filment leurs exploits avant de les mettre en ligne. Dans un communiqué, la chaîne Kura Sushi, dernière victime en date, parle de faits criminels.
Les mots ont pas sens. Merci beaucoup, Arthur. Et bon petit déj à tous. Et puis tiens, Géraldine, c'est à toi. Toi, tu nous emmènes à Pompéi où des moutons ont été appelés en renfort pour sauver les ruines.
Les célèbres ruines qui sont en train de disparaître sous l'herbe. Impossible de faire venir des machines sur ce site très sensible. Et donc, ce sont 150 moutons qui broutent l'herbe depuis le début du mois. C'est plus écolo, c'est aussi plus économique que les machines. Et puis, ça rappelle la grande époque de Pompéi, où il y avait juste des bois, des vignes et des moutons.
C'est à la fois, l'image est sympa et en plus nécessaire, si je comprends
exactement
bien.
Exactement, pour
merci
sauver ce site très sensible.
Les moutons. Et puis à 4h58, c'est l'info bonus avec Anaïs. Anaïs, toi, tu voulais nous donner des infos sur des concerts.
Oui, d'abord, concernant Patrick Bruel, il fera son retour sur scène l'année prochaine. Grande tournée à travers le pays, 26 dates annoncées de février à juin 2024. Il sera notamment en Narbonne, Toulouse, Caen ou encore à Paris, évidemment, à l'Accor Arena les 14 et 15 mars.
C'était mon premier concert, Patrick Bruel.
2024. Et t'as crié Patrick
évidemment.
La billetterie ouvre ce matin à 10h, Géraldine. Et puis je voulais aussi vous parler d'un concert qui aura lieu samedi soir sur la foire de printemps de Montpellier. Concert que j'aurais adoré faire avec plusieurs stars des années 90-2000, notamment. Et non, la Rousseau, je ne t'ai pas oublié. Je suis même à deux doigts de prendre les billets pour aller te voir à Montpellier.
Ah, je pourrais l'avoir. C'était déjà un concert que j'aurais adoré faire, mais t'aurais adoré le voir.
Pas faire. Non,
j'aurais aimé être la Rousseau, non ?
J'aurais
dans une autre vie.
Confession intime.
Oui. C'est peut-être un lien de cause à effet. En tout cas, retour de la pluie aujourd'hui, Géraldine.
Oh,
oui, c'est retour de la pluie par l'ouest. Bienvenue, hein, on le rappelle quand même. En tout cas, ce matin, il pleut surtout sur le nord-ouest. En journée, on va avoir des orages qui vont remonter de l'Aquitaine. Ce sera plus calme en allant vers l'est. Entre l'Alsace, la Côte d'Azur, la Corse, ce sera un temps sec et plutôt bien ensoleillé. Les températures nettes hausse, 20 degrés en ce moment là à Biarritz. Cet après-midi, il fera 15 à Lille, 17 à Paris, 18 à Marseille, 19 à Bordeaux, 21 à Grenoble. Et puis un week-end qui sera doux mais agité, notamment samedi avec des averses parfois orageuses sur les deux tiers ouest du pays.
La météo sur RMC avec Abri Sud. Abri de piscine, carport et pergola, 100% fabriqué en France.
Il est 5h, bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Charles Matin.
À 5h, vous avez rendez-vous avec Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. 217 personnes interpellées hier soir à Paris. La soirée a dégénéré. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue partout en France pour dénoncer le 49-3 et le passage en force de la réforme des retraites. L'opposition prépare sa riposte. Elle a jusqu'à 15h20 cet après-midi pour déposer ses motions de censure. Les syndicats appellent à une 9e journée de mobilisation jeudi prochain et des actions locales d'ici là. Enfin Nice qualifié pour les quarts de finale de la Conférence Ligue de football en battant Tiraspol 3-1 hier soir.
Ce sont des milliers de Français qui sont descendus spontanément dans la rue hier soir.
Au moins 2000 à Marseille, 3500 à Nantes et 6000 à Paris où le rassemblement Place de la Concorde s'est transformé en manifestation sauvage dans la soirée avec des feux de poubelle et des dégâts dans les beaux quartiers de la capitale, nous raconte Nicolas Robert pour RMC.
Des groupes de manifestants déambulent en chantant des slogans dans les rues de la capitale. Les forces de l'ordre chargent et les repoussent loin de la Place de la Concorde avec gaz lacrymogène et bombes assourdissantes. Les protestataires, souvent à peine majeurs, brisent des vitrines, brûlent des poubelles et s'en servent comme barricade. Le pare-choc d'un 4x4 a complètement fondu. Son propriétaire, sidéré, découvre son véhicule.
Faut niquer ma voiture, j'ai rien à voir. J'ai quoi à voir, moi, dedans ?
Devant l'Olympia, des commerçants tentent d'intervenir pour empêcher de nouvelles dégradations. David, qui a une vache chic en face, en veut au président Emmanuel Macron.
Tu vas être le fossé, lui, hein. 49.3, fallait oser. Hein.
Ça peut être très explosif si les étudiants se mettent dedans. C'est les jeunes, hein, ils ont rien à foutre. Les mecs, ils foutent le feu, ils courent, ils se barrent.
Ce 49.3 a décuplé la colère.
C'est la fête de la défaite de Macron qui s'annonce pour nous.
Ces violences sont inévitables, défend Paco, un des protestataires.
Tant qu'on ne sera pas devenu une gêne pour ceux qui décident, ils vont rien faire. On est au début de quelque chose. Ce sera une forme de continuité des gilets jaunes.
Après plus de 3 heures d'échauffourée, le calme est revenu vers 22h30 dans les rues de la capitale.
Il y a eu 217 interpellations à Paris, au moins 26 départs de feu à Rennes, où il y a eu des tirs de mortier, comme à Nantes, des boutiques saccagées, notamment à Marseille, rue Sainte-Féréole et sur la Canebière, des mannequins à l'effigie des membres du gouvernement brûlés à Dijon. Et au même moment, hier soir, la première ministre Elisabeth Borne expliquait au journal de 20h de TF1 pourquoi elle avait eu recours au 49.3 pour la 11e fois depuis le début du quinquennat, sans le vote donc de l'Assemblée et en engageant la responsabilité de son gouvernement.
Jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Nous voulions aller au vote. Comme vous le savez, le président des Républicains, Éric Ciotti, voulait voter cette réforme après les compromis qui ont été trouvés. Mais certains, au sein de ce groupe, ont joué une carte personnelle en contradiction avec ce que portent les Républicains depuis des années. Donc on a échangé autour du président de la République avec les ministres et on a constaté que le compte n'y était pas.
Elisabeth Borne qui dit avoir été très choquée par le vacarme à l'Assemblée quand elle annonçait son passage en force hier après-midi, référence à l'opposition de gauche qui a chanté en boucle la Marseillaise pendant son discours. Alors le match n'est pas terminé, Hélène Terzian du service politique à RMC. L'opposition a jusqu'à 15h20 cet après-midi pour déposer ses fameuses motions de censure.
Oui, Quentin, et ce que l'on sait, c'est qu'il y a déjà deux motions de censure qui devraient être déposées. D'abord, celle du Rassemblement National. Marine Le Pen est la première à l'avoir annoncée. Il faut 56 signatures pour en déposer une, pas un problème pour le RN et ses 88 députés. Difficile d'imaginer en revanche qu'elle soit votée. Tous les yeux et surtout ceux de l'exécutif sont rivés sur celle qui se prépare du côté de l'UIOT, ce groupe de 20 députés indépendants, plutôt centristes, certains des Outre-mer, pour déposer leur motion transpartisane. Ils ont besoin des autres groupes politiques. La NUPES est déjà prête à s'y associer. Quant au vote, c'est encore une fois du côté des LR que ça se joue, alors que les chefs du parti ont annoncé qu'ils ne participeraient à aucune motion. Déjà, une poignée de députés se désolidarise et se dit prête à la voter. Pas sûr que le compte y soit toutefois lundi lors de l'examen de la motion. Si elle aboutit, rappelons-le, le gouvernement le sait, il sera poussé à démissionner.
Et Emmanuel Macron a mis en avant hier les risques économiques et financiers pour justifier le recours au 49.3 selon les informations de BFM TV. C'est un crachat à la figure de tous les travailleurs, dit la CGT à Marseille. Les syndicats ont appelé dans la soirée à une 9e journée de mobilisation jeudi prochain, le 23, mais pas avant, ce qui surprenait d'ailleurs les manifestants hier soir, Romain Poiseau.
Pas de grosse mobilisation prévue avant jeudi prochain.
Alors on n'attend pas jeudi parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on appelle à plusieurs dates.
Plein de petites, selon Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites.
On appelle dès ce week-end à des rassemblements là où les gens vivent, habitent dans les villages, dans les petites localités, le plus près de chez eux.
L'objectif, cristalliser la colère des Français dans les campagnes, dans les villes, contre l'utilisation du 49.3, rassembler pour la grande manifestation de jeudi prochain.
Cette colère qui est la nôtre, elle va se transformer en mobilisation.
Faire monter la pression le plus vite possible pour Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.
Parce que d'une certaine manière, on est aussi dans une dernière ligne droite où on peut encore gagner si on donne ce dernier coup.
Un dernier coup de collier pour mettre fin à l'obstination d'Emmanuel Macron. Pour Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA.
Il n'est pas encore trop tard pour que le président de la République entende et prenne la parole en disant « je retire ».
Il faudrait qu'on soit encore bien plus nombreux dans la rue. Il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que personne ne veut de cette réforme. Personne.
Il appelle donc le président de la République à la raison.
S'obstiner, c'est abîmer la France.
Avant que les manifestations ne dégénèrent.
Et quand on aime la France, on ne peut pas l'abîmer.
Et il faut la grève partout, disent les syndicats. Des rassemblements d'ailleurs sont prévus effectivement devant les préfectures et sous-préfectures à Dax, Mont-de-Marsan, Foix, Laval, pareil à Rouen, midi devant la mairie, Toulon dès 9h30. En attendant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande dans une circulaire au préfet de renforcer la protection des élus de la majorité. Demande qui a été formulée par la chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger, redoutant des représailles. L'Assemblée nationale tient tout autre chose, a voté hier soir un durcissement des peines, des sanctions, sanctionnant les intrusions dans les centrales nucléaires dans le cadre de son projet de loi de relance. La gauche redoute que ce soit un frein aux actions des militants antinucléaires et des lanceurs d'alerte. Je vous signale que deux jeunes de 21 ans ont été condamnés à de la prison ferme hier soir à Paris pour le cambriolage du domicile du footballeur Presnel Kimpembe. C'était en novembre dernier. Ils écopent de 8 et 10 mois ferme. Ils assurent qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait de la maison de l'international français. Puisqu'on parle football, Nice se qualifie pour les quarts de finale de la Conference League en battant Tiraspol 3-1 hier soir. Première fois depuis le quart européen depuis 1960 et le défenseur Jean-Claire Todibo en avait conscience hier soir.
Très belle soirée d'Europe. On a plutôt bien géré notre match, je trouve. On a pour objectif d'aller le plus loin possible dans une compétition comme celle-ci. On sait qu'aujourd'hui, on a une histoire à écrire. On va essayer de rendre cette histoire encore plus belle et pas s'arrêter sur un quart de finale. Après, on va pas jouer la compétition avant l'heure. On prendra match après match.
Un tirage au sort à 14h, donc des quarts de finale avec la Fiorentina et West Ham en possible adversaire pour l'OGC Nice.
Oui, et ben ce sera à suivre, mais quoi qu'il arrive, ça reste c'est une belle aventure et ce serait génial en plus si
l'épopée européenne azuréenne, on va dire.
Bah oui, bah écoute, tu souris, mais c'est le dernier club français en Coupe d'Europe.
Mais, voilà. Mais je rigole pas du tout, c'est voilà. Le dernier club français qu'on va suivre évidemment sur RMC.
Évidemment, et on va continuer
mais on
à suivre.
Mais tiens pas ça, il a plus que ça. Hein.
Oui, par rapport au PSG, tu
oui,
veux dire.
Voilà.
Tu veux qu'on parle du stade de Reims?
Oh, c'est bon, Charles.
Bon, le stade de Reims qui est sur une série 19 voilà. Matchs sans défaite en
oui,
Ligue 1.
Oui, oui, et une épopée européenne au milieu du 20e siècle. Quoi. Bref, en attendant, à 5h08. Non, ce qui fait la une ce matin de l'actualité, évidemment, c'est ce 49-3 qui a provoqué une crise politique et la colère dans le pays. On a vu ces rassemblements spontanés un peu partout hier soir en France. Venez nous dire ce matin comment vous avez accueilli cette annonce d'un 49-3 et comment vous voyez la suite. Est-ce que cette réforme est encore légitime? Est-ce que ce gouvernement aussi est encore légitime? Est-ce que Elisabeth Borne doit démissionner? Au contraire, est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron a raison de jouer la sécurité et le passage en force pour sa réforme des retraites? C'est vous qui allez prendre la parole ce matin, évidemment, en toute liberté sur RMC. Il y aura aussi tous vos rendez-vous d'ici 6h. Anthony Morel, on va se marrer aussi avec Arnaud Demange, vous le savez. Bref, ça se passe ce matin avec vous sur RMC. Et on n'oublie pas nos rendez-vous, nos bonnes habitudes. On va tout de suite vous faire gagner.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, c'est une voix qui, le matin, vous permet de gagner des très beaux cadeaux au 32-16.
On va écouter un petit extrait d'une personnalité. Si vous reconnaissez cette voix, vous faites le 32-16 pour gagner.
Nous sommes convaincus d'avoir une majorité, de pouvoir construire cette majorité. Il y a un texte qui a évolué, parce que la majorité souhaitait l'améliorer, c'est une bonne chose. Évoluer, parce que nous avons aussi entendu des attentes très fortes des oppositions, et la cohérence, c'est de voter le texte.
Alors, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est le ministre qui porte cette réforme. Il a longtemps annoncé qu'il aurait une majorité. Bah, finalement, il n'y a même pas eu de vote. Est-ce qu'on peut donner comme indice? Il fait des abdos et des pompes. Il mange des steaks tartare.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, on est sur ce genre d'indice. Ah, d'accord.
Bah, je sais pas. Bah, il a fait parler de lui pour ça ces dernières semaines. Ouais. On l'a découvert.
Il vient du Parti Socialiste.
Ah oui, bah si ça vous aide à le retrouver. Voilà. Tiens, je peux vous dire que ce matin, il sera l'invité d'Apolline de Malherbe tout à l'heure à 8h30. Ça sera en direct dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Voilà, j'ai failli dire son nom, mais non, il ne faut pas le dire.
Non.
Parce que non, c'est à vous de jouer maintenant. Si vous avez le nom de cette personnalité, de la voix qu'on vient d'écouter, vous composez tout de suite le 32-16 parce que c'est votre dernière chance en ce vendredi pour remporter
un bon d'achat de 500€ dans les showrooms .p pour vous aider dans tous vos projets de rénovation avec un accompagnement 100% personnalisé.
Alors les 500€ chez .p, c'est votre dernière chance de les gagner. Ça se passe tout de suite au 32-16 si vous êtes rapide, si vous avez reconnu la voix du jour. Le gagnant sera avec nous en direct avant 5h30.
La voix du jour sur RMC avec .p. 235 showrooms partout en France pour vous accompagner dans la réussite de tous vos projets de rénovation intérieure et extérieure. Rendez-vous sur .p.fr.
Avant 5h30, on va aussi retrouver le meilleur d'Arnaud Demange pour se marrer. On va continuer à débattre aussi de cette réforme des retraites et de ce 49-3 avec vous au 32-16. Mais tout de suite, c'est l'heure de découvrir le choix d'Anaïs.
On file au lit, Charles, pour parler dodo. Parce que les Français ont du mal à dormir. Un Français sur trois se plaint. Étude publiée à l'occasion de la journée du sommeil aujourd'hui.
Eh ben, on va s'allonger avec Anaïs dans un instant.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
À 5h12 sur RMC, Anaïs vous propose de passer à l'horizontale.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Oui, on sourit, mais Anaïs, c'est la journée du sommeil aujourd'hui, journée organisée par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui publie à cette occasion une nouvelle étude sur le sommeil des Français. Oh, visiblement, on est nombreux à mal dormir. Hein.
Je suis fatigué, pas trop.
Oui, un Français sur trois n'est pas satisfait de la qualité de son sommeil. Et plus de 8 Français sur 10 sont concernés par les réveils nocturnes, des réveils qui durent en moyenne 30 minutes par nuit. Est-ce que tu sais, Charles, combien d'heures on dort par nuit en moyenne?
Pas assez, je sais pas. Ça doit être autour de 7 heures, non?
Eh oui, c'est ça, 6h58. Ouais, la durée du sommeil ne cesse de diminuer chez les adultes, mais aussi chez les ados. Moins d'un ado sur deux dort moins de 7 heures par nuit aujourd'hui.
Alors ça, c'est la moyenne en semaine. Dis-moi qu'on dort un peu plus quand même le week-end?
Globalement, oui, les Français dorment en moyenne 7h40 le week-end ou durant les vacances, donc 40 minutes de plus. Ça vaut quand on n'a pas d'enfant. Si vous êtes parent, vous savez tout comme moi que le week-end, c'est pire. Elle se réveille encore plus tôt que la semaine, ces petites merveilles.
On aurait tort de ne pas profiter pour faire une grasse mat ou seulement secouer cette feignasse qui va défoncer son matelas. Debout sur le lit.
Je crois pas avoir demandé le service du réveil.
En ce qui concerne le temps d'endormissement, je sais pas si c'est compliqué pour toi, mais les Français mettent 40 minutes en semaine à s'endormir contre 28 minutes le week-end. Mmh. Bah oui, le week-end, on est plus détendu et ça change pas mal de choses.
Mais, et pourtant, rappelons-le, bien dormir, c'est capital.
Oui, le manque de sommeil favorise les maladies cardiaques, infarctus, AVC, ça accroît le risque de diabète et puis ça peut mener au surmenage, voire carrément à la dépression.
Alors, est-ce que tu as des petites astuces pour mieux dormir?
Un Français sur cinq prendrait régulièrement des médicaments pour pouvoir dormir.
Tu vas faire de beaux rêves.
Mais j'ai quand même des conseils moins radicaux à vous proposer. Le premier, c'est de conserver un rythme. Près d'un Français sur deux pense que dormir plus longtemps permet de récupérer un manque de sommeil. Mais ça ne marche pas. Faut garder un rythme régulier toute la semaine et ne pas trop se décaler le week-end. Autre conseil, faire du sport, mais pas en soirée, sinon ça retarde l'endormissement. Manger léger le soir, faire des siestes courtes, pas plus de 30 minutes et pas trop tard. Et puis, si vous voulez bien dormir, il faut s'exposer à la lumière naturelle toute la journée. C'est pour ça que l'hiver, on a l'impression d'être plus fatigué parce que en fait il y en a moins et le soir même rituel, dodo à la même heure avec un livre, une petite tisane et surtout pas d'écran, Charles.
Les gens s'envoient un texto assez étrange le soir, là, la question à laquelle tu peux même pas répondre, c'est tu dors? Est-ce qu'il y a vraiment un gars qui a déjà répondu oui? Un mec qui aurait le forfait sommeil, quoi.
On coupe tout pour mieux rallumer RMC, évidemment, à 4h26 tous les matins. Enfin, pas demain. Demain, Charles, on dort.
Ah bah demain, il y aura la matinale week-end.
Bah oui, mais nous, on dort.
On va retrouver Mathieu Roux et toute l'équipe, évidemment, ce week-end. Mais oui, bah tant mieux si vous avez un sommeil un peu léger. Nous, ça nous arrange si vous êtes avec nous dès
4h26. Ah bah oui, évidemment, on est ravis.
Évidemment, on est ravis de vous retrouver et de vous retrouver au 32-16 ce matin. Priorité à vos réactions après l'annonce du 49-3 par le gouvernement pour faire passer en force la réforme des retraites. Tiens, on va accueillir Bruno qui a composé le 32-16. Bruno qui est agent immobilier dans l'Essonne, c'est ça? Bonjour Bruno.
Oui, bonjour. Maintenant, je suis formateur. C'est bon.
Formateur.
Bonjour Bruno.
Vous avez changement de carrière.
Oui, ça y est, c'est bon. Enfin, c'est réglé.
Et alors voilà. Bruno, est-ce que je peux donner votre âge? Je vous laisse le donner.
Oui, pas de souci. Ah bah, j'ai 55 ans. Donc,
55 ans, et alors justement, comment vous avez regardé ces débats, ou plutôt cette absence de débat hier sur la réforme des retraites, puisque le gouvernement a déclenché le 49-3?
Le 49-3 était inéluctable de toute façon, parce qu'ils étaient sûrs de ne pas avoir tous les votes au niveau des députés, donc ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient passer par la force.
Non, c'était pas sûr jusqu'à hier midi. Voilà. Visiblement, ils ont tout fait pour aller au vote, mais dans le doute, ils n'ont pas pris de risque. Voilà.
Oui, voilà. Mais même, ils avaient, là, d'après les derniers comptages, ils avaient 225 voix, alors qu'il en faut 280 dans mes souvenirs. Donc, c'était quasiment sûr que... personnellement, on se le disait déjà entre nous, il y a avant-hier, que c'était quasiment certain qu'il allait passer en 49-3.
En tout cas, ça ne vous choque pas, vous? Ça vous choque pas?
Quoi qu'il passe en 49-3 ?
Oui.
Mais c'est pas que ça me choque pas, c'est que c'était inéluctable. Bien sûr que ça me choque. Ça me choque parce que, si vous voulez, on est même plus en démocratie, on est même plus en république, c'est une royauté républicaine.
Enfin, attendez, Bruno, je vais quand même remettre un peu en perspective. Le 49-3, c'est loin d'être la première fois qu'Elisabeth Borne l'utilise, mais même que d'autres premiers ministres, je veux dire, Michel Rocard, c'est
bien
des dizaines de fois.
C'est enfin, le centième depuis le 5e République.
Voilà, donc on en est à la centième fois. On va pas faire semblant de découvrir le 49-3 hier.
Ah,
on est pas
tombé de notre chaise. Voilà. On découvre pas le 49-3, sauf que, si vous voulez, la grosse difficulté, c'est que pendant son programme, il a dit et redit et re-redit qu'il augmenterait pas l'âge de la retraite. Donc ça, déjà...
Il avait annoncé 64 voire 65 ans pendant la campagne.
Non, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas juste le 49-3 pour n'importe quelle réforme. C'est cette réforme des retraites qui est très contestée. Donc est-ce que c'est légitime d'utiliser le 49-3 pour cette réforme ?
Mais la réforme de la retraite, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que ça fait des mois et des mois et des mois que les Français sont dans la mouise. On le voit. Les problèmes du pouvoir d'achat, le problème de l'inflation, le problème de la dévaluation de la monnaie, le problème de l'emploi,
c'est une colère supplémentaire qui vient s'ajouter à d'autres difficultés. Bougez pas, Bruno, on va descendre un peu là. On est dans l'Essonne avec vous en région parisienne. On va descendre jusque dans les Hautes-Pyrénées du côté de Tarbes pour retrouver Jordi. Bonjour Jordi.
Bonjour Charles, bonjour toute l'équipe.
Jordi, levé de bonne heure, qu'est-ce que vous faites réveillé de si bonne heure, Jordi ?
Ah ben là, je vais attaquer le travail, je suis livreur en pharmacie.
Livreur en pharmacie, et donc début de la journée de boulot, j'imagine que vous roulez avec RMC de bon matin. Jordi, vous êtes relativement jeune, vous avez 30 ans, et ces débats là sur la réforme des retraites et ce 49-3, comment vous avez accueilli cette annonce hier ?
Très mal, disaient à peu près tous les interlocuteurs que j'écoute depuis ce matin, c'est... On n'est plus en démocratie, on vote pour les législatives et au final, nos députés n'ont plus le droit de porter nos voix pour dire qu'on est contre cette réforme. Donc,
Je vais rappeler encore une fois, parce que sur le principe de la démocratie, ce 49-3 est bien dans la Constitution, etc. Enfin là, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron usent toutes les armes qu'ils ont. Et puis, comme le dit Elisabeth Borne, il risque d'y avoir un vote. À la fin, c'est la motion de censure qui serait déposée par les oppositions. Et là, à ce moment-là, les députés pourront voter, mais le vote ne sera pas pour ou contre la réforme des retraites, mais pour ou contre le gouvernement, tout simplement.
Mais
il n'y aura pas eu de vote spécifique sur cette réforme, sur ce texte spécifiquement. Ça, c'est vrai, Jordi.
Oui. Et après, le problème de la motion de censure, c'est que, comme disaient les LR, ils ne voteront pas la motion de censure. Donc, dans tous les cas, la motion de censure ne passera pas, ça c'est sûr.
Mais alors, et donc, en attendant, si la motion de censure ne passe pas, ça veut dire que le texte, lui, est adopté presque par défaut, cette réforme des retraites, sauf si... il sera adopté, mais ensuite, ça ne veut pas dire que, pour autant, les manifestants vont rentrer chez eux, que la colère va redescendre, Jordi. Est-ce que vous pensez que les syndicats et que, comment dire, que ce 49-3, cette méthode peut remettre encore plus de Français dans la rue ?
C'est sûr que les Français vont sortir encore plus dans la rue. Et moi qui ai déjà participé à des occupations avec des syndicats au moment des confinements, je sais que j'ai suivi, je suis encore leur parcours aujourd'hui de ce qu'ils font. Et là, c'est plus que la révolte. Ça va être, et je pense que ça va être partout en France et ça va exploser. Ça va être, c'est le 49-3 de trop. Et en plus, comme il disait hier, c'était le 100e 49-3. Donc là, c'est celui de trop, c'est celui qui va faire déborder le vase.
Le 49-3 de trop, je note la formule, Jordi, parce qu'elle me marque, mais c'est assez représentatif de ce qu'on entend depuis ce matin au 32-16 avec vous, Jordi, ce 49-3 de trop, selon vous. Je vous remercie, Jordi et Bruno, d'être passés de bon matin témoigner, chacun de vos... chacun pour votre génération, si j'ose dire, Jordi qui a 30 ans, Bruno 55, Bruno qui est en région parisienne, Jordi dans le sud de la France, mais voilà, à travers vous, on entend aussi ce matin les réactions des Français après cette annonce du 49-3. On a beaucoup entendu les politiques, les députés, c'est normal, hier. Mais ce matin, on a envie de vous entendre, vous, au 32-16, comment les Français accueillent cette stratégie, on va le dire comme ça, d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, de passer en force avec un 49-3, de jouer la sécurité, diront-ils, parce qu'ils n'avaient été pas sûrs d'avoir les votes sur cette réforme hier. Vous entendez aussi l'opposition qui crie, oui, au déni de démocratie. Est-ce que vous espérez que Emmanuel Macron va réussir à passer en force avec ce 49-3, cette réforme des retraites, ou à l'inverse, vous espérez que le gouvernement soit mis en minorité avec une motion de censure? On va continuer à en débattre avec vous. C'est le 49-3 de trop, nous dit Jordi à l'instant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jordi? Vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert ce matin. On va vous entendre, évidemment, vous le savez, sur RMC. Et puis on va aussi, comme tous les matins, se détendre un peu. On va sourire avec l'ami Arnaud Demanche. On en a besoin pour bien démarrer la journée. De bon matin, le sourire est garanti dans un instant avec le meilleur d'Arnaud Demanche sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30, Charles Matin.
Il est 5h22, bon réveil à tous sur RMC. Tout de suite, la une de l'actualité avec Anaïs Castagna.
Des dizaines de rassemblements spontanés dans de nombreuses villes du pays. Hier, en réaction à l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, des débordements à Nantes, Marseille, Rennes ou encore Paris, où 217 personnes ont été interpellées. Écoutez ce qu'on pouvait entendre hier dans les cortèges.
Les gens sont insurgés aujourd'hui avec un énième 49.3. Les députés ne peuvent pas s'exprimer. C'est nous qui les avons élus.
Voilà, c'est ce qu'on entendait hier dans les manifestations. On y revient dans le journal de Thibaut Texter. Les explications d'Elisabeth Borne. L'enjeu, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite. Et ce n'est pas un enjeu personnel. Voilà ce qu'a dit la première ministre Elisabeth Borne hier sur TF1. Elle s'est dite choquée par les huées de l'opposition à l'Assemblée. Et puis l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action jeudi prochain, le 23 mars. Elle appelle aussi à organiser des rassemblements syndicaux de proximité dès ce week-end.
Mais tout de suite, à 5h23, évidemment, sur RMC, on ne va pas le louper. C'est Arnaud Demanche qu'on retrouve tout de suite sur RMC, évidemment. Pour sourire tous les matins, c'est la garantie pour vous qui vous levez tôt. Pour bien démarrer la journée, on se marre tous les jours avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours Demanche.
Arnaud, on va parler d'une affaire étonnante, une jeune Allemande qui fait le buzz. Après avoir déclaré il y a quelques semaines être Maddie McCann, l'enfant disparu en 2007 au Portugal, aujourd'hui elle pense en fait être une autre enfant kidnappée, une fillette suisse du nom de Livia Shep.
Voilà, c'est un jour un destin pour cette jeune fille. Alors, c'est un buzz mondial. Hein. Elle a eu plus d'1,5 million d'abonnés sur Instagram à l'échelle d'Internet. C'est énorme. C'est-à-dire qu'elle est aussi importante qu'un chaton qui joue du piano, par exemple, ou que Afida Turner. Bon, après, des gens qui veulent devenir Suisses à l'âge adulte, ça arrive très souvent. Enfin, je veux dire, tous les tennismans ou les hommes d'affaires font ça. Fiscalement, c'est intéressant. Et vous allez voir que dans 15 jours, elle va nous dire qu'elle est le petit Grégory. Dans un mois... Ah non, j'ai changé d'avis. En fait, je suis Xavier Dupont de Ligonnès. Dans 2 mois, pardon, je me suis trompé, je suis le chat de la mère Michel qu'elle avait perdu. On a tous eu envie de changer de famille un jour, mais enfin là, on est au niveau olympique. Hein. Je serais les parents, même je serais vexé. Ah bah vous imaginez, votre gamin qui se rebelle, de toute façon, ici, j'ai le droit de rien faire, vous êtes naze, vous êtes même pas mes vrais parents. Mes vrais parents, en fait, c'est Michel Fournier et Véronique Cougerose. Ça, c'est des parents, ça. Moi, ça me plairait pas, vous voyez.
Arnaud, Joe Biden veut taxer plus lourdement les plus riches et il souhaite un impôt minimum de 25% pour les milliardaires.
Ouais, les pauvres. C'est pas facile d'être milliardaire. Dieu merci, nous on l'est pas. Hein. Ouf.
Sauvé.
Oh, sauvé. Heureusement, en France, on fait rien de tout ça. Chez nous, il n'y a pas d'ISF, on taxe pas les super profits, puis tu peux choper des aides et des crédits d'impôt partout. La France va devenir un Eldorado pour les milliardaires du monde entier. C'est un paradis fiscal pour les plus riches. Élise Lucet va se régaler.
Finance, opacité, fraude, après les Panama Papers, Cash Investigation vous dit tout des Bar-le-Duc Papers. Pourquoi des milliardaires ont-ils décidé de placer une partie de leurs économies au Crédit Agricole de l'avenue Georges Marchais de Bar-le-Duc? Cash Investigation vous dit tout sur le paradis fiscal français. Monsieur Latronche, bonjour. Élise Lucet, vous êtes expert comptable dans la Meuse. Expliquez-nous les rouages mystérieux du système français.
Ben là, j'ai Jeff Bezos qui vient d'ouvrir un Codevi. Et j'ai conseillé à Bill Gates un livret de caisse d'épargne et il m'a pris une Visa Electron.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et c'est tout à l'heure. On retrouve Arnaud, évidemment, à 7h20 et 8h20 en direct sur RMC pour ces deux rendez-vous. Dans Apolline Matin, ne le manquez pas. On a hâte de l'entendre au lendemain d'un 49.3. Arnaud, forcément très inspiré. Ce sera tout à l'heure dans Apolline Matin sur RMC. Mais à 5h26, vous le savez, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Magali qui a été la plus rapide ce matin. Magali qui est en Ille-et-Vilaine, c'est ça? Bonjour Magali.
Oui, bonjour.
Bonjour Magali.
Vous êtes où précisément Magali?
Je suis à Champs-de-Bretagne, près de Rennes.
Près de Rennes, ok Magali. Réveillée de bonne heure pour le boulot?
Eh bien oui, je vais attaquer.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis employée de commerce, donc je fais de la mise en rayon.
D'accord, de la mise en rayon, donc levé tôt pour le boulot avec RMC. Mais avant d'arriver au boulot, vous avez eu le bon réflexe, vous avez composé le 32-16 pour tenter votre chance.
On va voir si vous avez gagné. On réécoute la voix du jour, on a votre réponse dans la foulée.
Nous sommes convaincus d'avoir une majorité, de pouvoir construire cette majorité. Il y a un texte qui a évolué, parce que la majorité souhaitait l'améliorer, c'est une bonne chose. Évoluer, parce que nous avons aussi entendu des attentes très fortes, des oppositions, et la cohérence, c'est de voter le texte.
Alors Magali, est-ce que vous l'avez reconnu?
Alors, je pense que c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
Waouh, le titre et tout, bravo Magali, c'est gagné. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, l'homme qui porte cette réforme des retraites. et qui sera l'invité tout à l'heure d'Apolline de Malherbe à 8h30. Notez bien le rendez-vous, le face-à-face à 8h30 sur RMC et BFM TV. Ce sera Olivier Dussopt qui sera face à Apolline. Mais Olivier Dussopt qui, dès maintenant, Magali, vous permet de remporter
un bon d'achat de 500 euros dans les showrooms .p pour vous aider dans la réalisation de vos travaux. Bravo.
Merci beaucoup.
Eh ben voilà, 500 euros pour vous, Magali, si vous avez des projets de travaux. Ça nous fait très plaisir de vous les offrir de bon matin. Et voilà, une journée qui démarre bien, Magali.
Tout à fait, oui.
Ouais. On entend votre sourire, Magali. On va vous accompagner sur la route du boulot ce matin. Ne quittez pas, on prend vos coordonnées hors antenne. Et puis évidemment, La Voix du Jour revient lundi dès 5h pour récompenser les leftos sur RMC.
La Voix du Jour sur RMC avec Point P. 235 showrooms partout en France pour vous accompagner dans la réussite de tous vos projets de rénovation intérieure et extérieure. Rendez-vous sur pointp.fr.
Il est bientôt 5h30 sur RMC, évidemment les infos et la météo, mais d'abord l'info en plus avec Anaïs. Anaïs, ce soir, c'est le Palma Show de retour sur TF1, soirée consacrée au duo d'humoristes qui cartonnent depuis des années.
Grégoire Ludig et David Marseille, ça fait un moment qu'on les connaît, ils se sont fait connaître sur YouTube, puis sur C8 avant de partir sur TF1 où le groupe est allé jusqu'à leur proposer des primes. Au programme ce soir, des parodies de séries phares de Netflix, The Crown, Lupin ou encore Emily in Paris qui deviendra Didier in New York City.
Oh my gosh, I'm so sorry. You okay?
Ah, yes, no, I'm okay. No problem, j'ai d'autres pantacours in the Valoche.
You're French, right?
Yes, how you know?
Just like that.
Et puis tu sais que le Palma Show parodie des tubes. Eh bien, ces chansons parodiques viennent d'être mises en ligne sur les plateformes d'écoute type Spotify. Parmi elles, ce qu'on entend, rappeur sensible en référence à PNL.
Ça me fait du mal quand elle peut pas aller au bal. Putain, c'est noble. Sa belle-mère l'attend. Ariel. Des larmes de sel et puis Mowgli, c'est chaud aussi.
Et oui, Mowgli, c'est chaud aussi. Il chante le duo.
Apparemment, il y aura des nouveaux tubes ce soir. 21h10.
Oui, sur TF1, le Palma Show de retour. Pour nous faire sourire à 5h29, elle va aussi vous dévoiler. Alors, non, pas en chanson, c'est promis, Géraldine Demory. La météo du jour, c'est tout de suite.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h20, bon réveil à tous avec RMC. Alors ce 49-3 va-t-il renforcer la colère?
C'est la question du jour sur RMC.
Cette réforme est nécessaire aussi sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité de mon gouvernement.
C'est l'image, ou plutôt le son, qui aura marqué la journée d'hier. Ce coup de théâtre, Elisabeth Borne qui déclenche l'article 49.3. Quelques minutes plus tôt, Emmanuel Macron avait tranché. La réforme des retraites ne sera pas soumise au vote des députés. L'exécutif n'était pas assuré d'avoir la majorité dans l'hémicycle. Il a donc opté pour la sécurité, ou plutôt le passage en force, disent les opposants, avec ce 49.3. On va rappeler ce que ça veut dire, Anaïs. Le 49.3, ça veut dire que le gouvernement engage sa responsabilité.
La réforme est considérée comme adoptée, sauf si la motion est votée. Une motion est votée, les oppositions ont jusqu'à 15h20 pour déposer des motions de censure aujourd'hui. Trois motions devraient être déposées. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut réunir au moins 287 voix de députés. Dans une telle situation, le gouvernement d'Elisabeth Borne devrait démissionner et la réforme serait rejetée. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a indiqué que les LR ne voteraient aucune motion de censure, mais plusieurs députés de droite se sont pourtant dit prêts à voter une motion pour renverser le gouvernement.
Ouais, pour le dire clairement, on est en pleine crise politique, hein, une majorité ébranlée, une première ministre affaiblie, une motion de censure, des motions de censure qui peuvent être déposées aujourd'hui puis examinées dans les jours qui viennent. On va en débattre avec vous. On a vu dès hier la colère s'exprimer dans les rues. Vous l'entendez dans nos journaux ce matin. Il y a eu des rassemblements spontanés dans plusieurs villes de France et même des échauffourées en marge de certains rassemblements. Cette colère qui s'est exprimée hier dans les rues, on va voir ce matin si elle s'exprime avec vous au 32-16. Votre état d'esprit après l'annonce de ce 49-3. On va accueillir Julien au 32-16. Julien qui nous appelle de Saint-Denis à Clichy-sous-Bois, c'est ça? Bonjour Julien.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Julien, vous êtes levé de bonne heure, c'est pour le boulot ce matin?
Pas du tout. Ah. Non, pas du tout. À vrai dire, j'ai pas trouvé le sommeil.
Ah.
J'ai pas trouvé le sommeil parce que je suis particulièrement énervé de par ce qui vient de se passer.
Par le 49-3, vous voulez dire? C'est ça qui vous
a... Tout à fait,
ah ouais, donc une nuit blanche causée par ce 49-3. Parce que par énervé, c'est ça?
Oui, ouais, tout à fait. L'énervement d'avoir fait passer donc cette loi sur les retraites via le 49.3, donc sans avoir passé ça au Parlement, mais surtout énervé parce que c'est pas la priorité, la réforme des retraites. La priorité actuellement, c'est vraiment le pouvoir d'achat où on met des antivols sur de la viande, et c'est assez représentatif de ce qui se passe en fait. Et ce qui incombe de ce pouvoir d'achat, enfin ce qui est la résultante de cette crise du pouvoir d'achat, c'est ni plus ni moins que l'énergie. Et ça, on n'en parle plus. Et on parle beaucoup de la retraite, on en parle effectivement un peu quand même de l'énergie, mais il se passe rien depuis cet été. Et tout en découle pourquoi ? Parce que si l'énergie est si chère, les prix, ils augmentent, les entreprises, elles ferment. Si les entreprises, elles ferment, moins de cotisants, problème de réforme de retraite. Et il y a de l'argent en France. Il y a de l'argent un peu partout. On a fait beaucoup de réformes pour pouvoir permettre justement aux entreprises de défiscaliser, d'optimiser. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, il se passe qu'on a de moins en moins d'argent pour pouvoir payer notre système. Mais à un moment donné, faudrait-il pas s'occuper de ça, plutôt de s'occuper d'une réforme des retraites qui, de toute façon, va devoir à nouveau être réformée au prochain mandat, pour la simple et bonne raison que comme on ne s'occupe pas des problèmes de fond, c'est-à-dire l'emploi...
Oui, donc pour vous, Julien, si je comprends bien, c'était pas le moment de faire une réforme des retraites, et encore moins la bonne méthode avec ce 49.3.
Non, pas du tout. Et puis ça énerve les gens, ça excite les gens. Pour preuve, moi, qui suis pas un anti-macroniste pur primaire, ça m'a saoulé, en fait. Ça m'a vraiment saoulé. J'ai dormi 3 heures, quoi. Je me suis réveillé. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est j'ai allumé la radio, j'ai regardé les infos pour voir un peu ce qui se passait. Et on le voit dans la rue. On voit que les gens ont commencé à sortir de façon spontanément.
Vous-même, Julien, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous êtes descendu dans la rue. Vous avez participé à des manifestations, des mobilisations contre cette réforme?
Ouais, tout à fait. J'ai fait grève pour la première fois de ma vie à la première annonce d'une manifestation contre cette réforme pour les raisons que je vous ai citées. Parce que ça m'a rendu hors de moi. Mais à côté de ça, ça me fait quand même assez marrer. Ça me fait assez marrer ce qui se passe parce que les gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron sont les mêmes qui sont actuellement dans les rues. Mais à un moment donné, il fallait aussi se dire que dans les élections passées, donc c'est-à-dire il y a moins d'un an, il y avait des programmes beaucoup plus sociaux concernant les retraites ou des programmes concernant l'économie française.
On ne va pas refaire le match de 2022,
mais
c'est vrai que la réforme des retraites figurait au programme d'Emmanuel Macron. Après, pas certain, Julien, que tout le monde ait voté pour Emmanuel Macron, tous les électeurs d'Emmanuel Macron soient aient voté pour lui sur ce point spécifique des retraites. Julien, bougez pas, parce que je vois que Bernard nous appelle lui aussi. On est dans Lyon, c'est ça, avec Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour Anaïs, bonjour Charles.
Bonjour.
Bernard, racontez-nous, vous ce matin, vous êtes levé de bonne heure, c'est pour le boulot aussi?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous faites?
Donc moi je suis entrepreneur dans le domaine de l'informatique.
D'accord.
Et c'est vrai que, moi j'étais persuadé que le vote allait passer, en fait, et que le 49.3 n'allait pas être appliqué.
Oui, il y aurait une majorité.
Et qu'on allait procéder à un vote. Et c'était la meilleure façon, j'aurais dit, pour le gouvernement de sortir la tête haute si le vote n'était pas passé. Au mieux pour eux, le vote passait et on n'en parlait plus. Et on va dire les mouvements sociaux devaient aller s'arrêter peut-être, ou je ne sais pas.
En tout cas, cette réforme avait une légitimité démocratique si elle avait été adoptée par le Parlement avec un vote classique. Là, ce qui est le plus compliqué, c'est que le 49.3, ça donne un argument aux opposants pour dire, attendez, les députés ne se sont jamais exprimés spécifiquement sur cette réforme.
Tout à fait. Même moi qui suis concerné, donc moi j'ai 57 ans et je suis concerné, je devrais travailler 3 trimestres ou un an de plus. Mais quelque part, on l'accepte parce que on a tous les argumentaires qui font qu'aujourd'hui on peut travailler plus longtemps. Alors moi, c'est vrai qu'il faut tenir compte aussi de la pénibilité de certains emplois, mais on va dire qu'il y avait une légitimité.
Vous n'étiez pas foncièrement opposé à cette réforme, Bernard. Vous n'étiez pas en tête de manif, si je comprends bien.
En fait, elle s'accepte au fur et à mesure du temps. Elle peut s'accepter.
Oui, mais il y a le fond et la forme. Là, si je comprends bien, pour vous, ce qui pose un problème, c'est la forme, la méthode du gouvernement.
Exactement. Et cette méthode, avec sans une approche sociale et sans une écoute sociale, et encore plus en ce moment. Et puis j'écoutais l'auditeur précédent là.
Julien,
c'est pareil. On a le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même de la misère. Enfin, moi qui travaille dans toute la France. Aujourd'hui, je le vois. À Paris, on voit moins la misère, mais on la trouve beaucoup plus dans les campagnes. Enfin, moi, je travaille sur plusieurs sociétés, Et je peux vous dire que dans l'industrie, il n'y a pas de gros mouvements sociaux, mais il y a
une souffrance.
Dire qu'il y a de la misère, mais il y a de la souffrance.
Ouais, vous avez raison d'en témoigner, Bernard. Ouais. Et Julien, qui est encore là. Julien, vous êtes toujours là, qui, avec cet exemple des antivols sur la viande, voilà, c'est aussi la réalité du pays en ce moment. Et c'est vrai que depuis deux mois, c'est le feuilleton des retraites qui occupe beaucoup la classe politique, les élus, les médias aussi, même si Julien et Bernard, je suis obligé de rappeler que sur RMC, vraiment, le pouvoir d'achat et l'inflation, on en a fait une priorité. On en parle très régulièrement. On essaye d'être en pointe sur le sujet. Même si, il faut aussi parler des retraites parce que c'est l'avenir. Ça concerne tout le monde, peu importe notre âge, notre génération, etc. Donc, oui, il y a ce feuilleton des retraites et cette méthode du gouvernement. C'est aussi la, vous avez raison, Julien et Bernard, de dire que ce qui est sous-jacent aussi derrière cette colère et ce qui met en colère les Français, c'est que ce 49-3, il vient s'accumuler à d'autres choses, à d'autres urgences du moment du côté du pouvoir d'achat et de l'inflation. Je vous remercie tous les deux, Julien et Bernard, deux générations, de situations différentes, mais d'être venus témoigner ce matin tous les deux de la manière dont vous avez accueilli ce 49-3, cette méthode du gouvernement, ce passage en force, disent les opposants, avec ce 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Vous faites comme Julien et Bernard, ce matin, vous l'entendez, vous prenez la parole en toute liberté, vous venez témoigner en direct sur RMC, vous allez continuer à le faire aussi dans Apolline Matin à 6h30, à 6h10. Je vous signale aussi qu'on sera avec un député macroniste favorable à cette réforme. Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, sera en direct à 6h10 avec nous sur RMC. Venez l'interpeller si vous le souhaitez au 32-16, vous n'hésitez pas. Mais tout de suite, nos deux rendez-vous, deux hommes qui viennent de nous rejoindre dans ce studio. Anthony Morel, bonjour.
Bonjour.
Et tiens, justement, on parlait pouvoir d'achat à l'instant avec nos auditeurs. Anthony, dans C'est déjà demain, t'as des applis, c'est ça pour...
Exactement, oui, un smartphone, ça sert à tout, même à faire des économies. Et on va voir que les applications sont très pratiques.
Les bonnes applis d'Anthony dans un instant. Et puis on va sourire avec l'histoire d'Arthur Askin. Salut Arthur.
Salut Charles. On va encore parler de Rishi Sunak, le premier ministre britannique.
Décidément, c'est ton nouveau héros, lui.
C'est ma bonne tête de turc.
Ouais, ta coqueluche, j'allais dire, mais c'est une tête de turc. Il est 6h10 sur RMC. Avant cela, tout de suite, si vous venez de vous réveiller, voici les trois infos à la une avec Anaïs Castagna.
À la une ce matin sur RMC, la colère de nombreux Français après l'usage du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. On l'entend ce matin avec vous au 32-16 et elle s'exprime aussi dans la rue. Des dizaines de rassemblements spontanés ont eu lieu hier dans le pays, notamment à Paris, place de la Concorde, où des débordements ont eu lieu. Écoutez ces manifestants qui en veulent à Emmanuel Macron.
C'est la fête de la défaite de Macron qui s'annonce pour nous. Tant qu'on ne sera pas devenu une gêne pour ceux qui décident, ils vont rien faire.
217 personnes interpellées hier à Paris, on y revient dans le journal de Quentin Vinet. Les explications d'Elisabeth Borne aux 20h de TF1, la première ministre dit avoir tout fait pour aller au vote, mais le compte n'y était pas. Elle s'est dit très choquée par les huées de l'opposition à l'Assemblée. Et puis l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action jeudi prochain, 23 mars. Elle appelle aussi à organiser des rassemblements syndicaux de proximité dès ce week-end. On va y revenir en détail là aussi.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Anthony, on va sortir nos stylos parce que ce matin, tu as des applis à nous présenter, des applis très intéressantes puisqu'elles permettent de faire des économies quand on fait ses courses.
Il y en a des dizaines et c'est vrai qu'elles permettent de grappiller quelques précieux euros qui vont se cumuler d'ailleurs. Et vous allez voir que c'est loin d'être négligeable. Alors on va commencer par la base. Il y a les comparateurs de prix qu'on connaît depuis très longtemps.
Allez, on sort les stylos.
Vas-y. Alors, Idéalo, quel coût? Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est Achat moins cher. C'est pas compliqué à retenir, qui fonctionne très bien.
Achat
moins cher, tu tapes le nom d'un produit ou alors tu vas scanner le code barre d'un produit et tu vas voir tous les magasins et les sites internet où tu peux les acheter les moins chers. Très très pratique. Ensuite, tu as toutes les applications qui vont te redonner de l'argent une fois que tu es passé à la caisse. Là, la star, c'est Shopmium qui fonctionne très très bien, mais on a aussi Quoti, Igral Market ou Feedmark. Et en gros, ces applications, elles vont te proposer toute une gamme de produits. Alors, tu n'as pas le choix évidemment. Là, par exemple, tu as de la sauce tomate, des capsules de café, enfin tout un tas de choses avec des promos qui vont de moins 15 à moins 30%. Donc c'est pas négligeable. Tu fais tes courses, tu rentres à la maison, tu scannes ton ticket de caisse et tu vas être immédiatement crédité sur ton compte PayPal. Et donc ça va être quand même parfois des dizaines d'euros quand on cumule ça sur un mois. C'est quand même pas rien.
Ah ouais.
Une autre option, certaines applis proposent de tester des produits et de les obtenir gratuitement en échange.
Alors une appli très maligne, Mon Avis le rend gratuit, qui permet de tester des produits et puis tu les as gratuitement. C'est-à-dire que l'appli, en fait, tu vas on va te proposer des produits. Là encore, t'as pas le choix. Tu vas faire tes courses, tu mets le produit dans ton panier. Et à la caisse, tu montres l'application, tu ne payes pas le produit. Alors, il faut quand même réaliser par ailleurs 30 euros minimum d'achat dans le magasin. Et ensuite, on va juste te demander un avis sur le produit. et tu vas cumuler des points qui vont te permettre d'avoir d'autres produits gratuits par la suite. Donc c'est très malin et ça permet de ne pas payer, là encore, de faire de grosses économies.
Et puis dernière astuce pour ceux qui ont des vieux téléphones qui traînent dans les tiroirs, les laisser au supermarché contre une ristourne sur le panier de course.
Ouais, il y a de plus en plus de supermarchés, Carrefour, Monoprix à Marseille, Dijon, Caen, Narbonne, Antibes et d'autres villes qui commencent à installer ces bornes qui permettent de revendre son téléphone. Il y en a 100 millions qui traînent dans nos placards contre une remise. C'est hyper malin. Donc tu arrives, tu branches ton téléphone comme ça, la machine. Tu l'as fait ça? Alors le truc c'est qu'ils te proposent pas en général des sommes mirobolantes. Ça va de quelques dizaines.
Ça payait pas le panier de course.
Non, c'est ça. Ça dépend. Bah après ça dépend de la gamme du téléphone. Si t'as des téléphones qui sont vraiment pas très très vieux, ça peut aller monter jusqu'à quelques centaines d'euros, mais souvent ça va être quelques dizaines d'euros. Et tu vas pouvoir avoir comme ça une remise qui va être utilisable immédiatement à la caisse du supermarché.
Et ben voilà, les bons plans, les économies d'Anthony Morel avec toutes ses applis. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, pas de problème. Il y a le podcast sur l'appli RMC pour réécouter tous les bons plans d'Anthony Morel. Vous n'hésitez pas, ça se passe sur l'appli RMC tous les jours. Vous retrouvez C'est déjà demain et vous retrouvez l'histoire d'Arthur Asquin.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Arthur Asquin, ce matin, tu nous racontes la deuxième petite polémique de la semaine autour de Rishi Sunak. C'est le Premier ministre britannique.
Oui, mardi, je vous ai parlé des travaux engagés pour que sa piscine soit chauffée convenablement dans son manoir du nord de l'Angleterre. Cette fois-ci, c'est la chienne du Premier ministre qui est en cause. Une vidéo publiée mardi la montre gambader sans laisse sur les pelouses de Hyde Park à Londres. Ce qui est interdit, hein, un panneau le stipule clairement. Ensuite, on voit Rishi Sunak la tenir par le collier avant que sa compagne finissent par lui attacher la laisse sur les conseils de l'officier de sécurité.
C'est pas la seule petite entorse que s'est permis Rishi Sunak.
Et oui, en octobre, il a reçu une amende car il s'était filmé sur les réseaux à bord de sa voiture sur un siège passager, mais sans sa ceinture de sécurité. Mmh. Il avait reconnu une erreur et s'était excusé. Et puis pendant le Covid, il était ministre des Finances et avait déjà pris une belle prune après le scandale du Partygate. Vous vous en souvenez, il était présent à la fête d'anniversaire de Boris Johnson en plein confinement. Décidément, Rishi Sunak est un Premier ministre bad boy.
Ouais, mais lui ne dégaine pas des 49-3.
Il a plus que des soucis canins ou de ceinture de sécurité. Il a quelques soucis aussi politiques, mais en France ce matin évidemment on parle beaucoup de ce 49-3. J'aimerais quand même à 5h55 qu'on dise un mot avec Anaïs dans cette info bonus de Shakira, parce que Shakira, figurez-vous, enchaîne les records avec sa chanson contre son ex Gérard Piqué.
Oui, le titre en collaboration avec un DJ argentin lui a permis de battre 14 records du monde. Chanson latino la plus écoutée en 24 heures sur Spotify, la plus vue sur YouTube en 24 heures, chanson en espagnol d'une artiste féminine la plus classée dans différents classements Billboard, et j'en passe. Elle compte à ce jour plus de 400 millions d'écoutes sur Spotify, plus de 400 millions de vues sur YouTube. Énorme carton et sans doute donc une consolation.
Tant mieux pour elle, voilà, t'as raison, ça lui fait. Voilà, c'est une vengeance, mais aussi un succès pour Shakira avec cette chanson. Allez, 5h56. Dans un instant, votre journal de 6h sur RMC avec à la une évidemment la colère des Français après l'annonce du 49-3 par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites. C'est tout de suite sur RMC et sur RMC Story à la télé, canal 23 de la TNT.
RMC, 4h30, 6h30,
Charles Matin.
Il est 6h, bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h, vous avez rendez-vous avec Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. 217 interpellations hier soir à Paris. La soirée a dégénéré. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue partout en France pour dénoncer le passage en force de la réforme des retraites. Quelle suite politique maintenant? L'opposition a jusqu'à 15h20 pour déposer ses motions de censure et tenter de renverser le gouvernement. Et puis le foot, c'est Nice qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Conférence League en battant Tiraspol 3-1 hier soir.
Et puis notez bien que dans un instant, c'est Louis Marguerite, député macroniste, député Renaissance de Saône-et-Loire, qui sera en direct avec nous dans quelques minutes sur RMC pour justifier ce 49-3. Soyez bien au rendez-vous, c'est à 6h10. La mobilisation contre la réforme des retraites a fini par dégénérer hier soir.
Oui, les manifestations se déroulaient dans le calme jusque-là depuis janvier, mais le recours au 49-3 a déclenché la colère de milliers de Français descendus dans la rue partout en France. Au moins 6000 personnes hier soir à Paris, où le rassemblement place de la Concorde s'est transformé en manifestation sauvage avec des feux de poubelle et de gros dégâts dans les beaux quartiers, nous explique Nicolas Robert pour RMC.
Des groupes de manifestants déambulent en chantant des slogans dans les rues de la capitale. Les forces de l'ordre chargent et les repoussent loin de la place de la Concorde avec gaz lacrymogène et bombes assourdissantes. Les protestataires, souvent à peine majeurs, brisent des vitrines, brûlent des poubelles et s'en servent comme barricade. Le pare-choc d'un 4x4 a complètement fondu. Son propriétaire, sidéré, découvre son véhicule.
C'est niqué ma voiture, j'ai rien à voir. J'ai quoi à voir, moi, dedans ?
Devant l'Olympia, des commerçants tentent d'intervenir pour empêcher de nouvelles dégradations. David, qui tient une brasserie chic en face, en veut au président Emmanuel Macron.
Tu vois, tu le fais aussi, lui, hein. 49.3, fallait oser. Hein.
Ça peut être très explosif si les étudiants se mettent dedans. C'est les jeunes, hein, qui n'ont rien à foutre. Les mecs, ils foutent le feu, ils courent, ils se barrent.
Ce 49.3 a décuplé la colère.
C'est la fête de la défaite de Macron qui s'annonce pour nous.
Ces violences sont inévitables, défend Paco, un des protestataires.
Tant qu'on ne sera pas devenu une gêne pour ceux qui décident, bah, ils vont rien faire. On est au début de quelque chose. Ce sera une forme de continuité des gilets jaunes.
Après plus de 3 heures d'échauffourée, le calme est revenu vers 22h30 dans les rues de la capitale.
Il y a eu 217 interpellations à Paris, des boutiques et des banques saccagées à Marseille sur la Canebière et rue Sainte-Féréole. Des tirs de mortier à Nantes, il y en a eu à Rennes aussi. Vous êtes en direct ce matin pour RMC, Marion Gauthier. La mairie socialiste de Rennes parlait hier soir de violences sidérantes dans cette ville. Est-ce que vous voyez les dégâts, vous, ce matin ?
Oui, c'est visible aux nombreuses vitrines brisées, souvent recouvertes de panneaux de bois, aux tags, aux traces de brûlés par terre. Et c'est audible aussi lorsque vous marchez, ça crisse, les débris de verre font scintiller les pavés. J'ai croisé des éboueurs, l'un d'eux travaille ici depuis 3 ans, il m'assurait qu'il n'avait jamais vu ça. L'air pique encore un peu la gorge, odeur de gaz lacrymogène ici sur la place Sainte-Anne où tout a commencé. Vers 19h hier, des centaines de manifestants se sont rassemblés, puis éparpillés dans la ville. 26 feux ont été éteints par le service d'incendie et de secours d'après la préfecture qui parle de 700 jeunes dont 300 ultras qui ont poursuivi, je cite, leurs exactions jusqu'à minuit environ. Pas de chiffre des blessés mais il y a eu hier 8 interpellations et autant de gardes à vue.
Et si autant de Français sont descendus soudainement dans la rue hier soir, c'est parce qu'ils étaient révolté, le mot est souvent revenu par le recours au 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites dans un brouhaha pas possible à l'Assemblée nationale. L'opposition de gauche ayant chanté la Marseillaise tout au long du discours de la Première ministre Elisabeth Borne qui s'est dite choquée hier soir aux 20h de TF1.
Vous savez, j'ai été très choquée. Quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, des cris où on ne s'entend même pas parler. Ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue.
C'est la 11e fois que le gouvernement Borne a recours au 49.3 depuis 10 mois, ce qui en fait déjà le 2e gouvernement de la 5e le plus gourmand en la matière. Et Sébastien Krebs du service politique à RMC, vous nous dites que même que ce passage en force choque au sein de la majorité.
Oui, on est tous sonnés, nous a confié un député Renaissance. Il y a de la déception, de la frustration. Je suis atterré par le choix du 49.3, regrette un autre. Les élus Modem, par exemple, ne cachent pas leur agacement.
J'aurais voulu qu'on vote, après il se passera ce qui se passera. Ça n'a plus beaucoup d'importance.
Nous, on souhaitait le vote, c'est ça.
On souhaitait un vote. On est très mécontents du 49.3.
Et tout cela s'est exprimé dans une réunion de groupe de tous les députés de la majorité à huis clos, juste après l'hémicycle. La première ministre était là, au bord des larmes, au moment d'évoquer son destin personnel. Elle a été longuement applaudie. Elle ne doit pas servir de fusible, insiste le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade.
Elle a été ovationnée et extrêmement soutenue dans la réunion de groupe qu'on vient d'avoir à l'instant. Et je peux vous assurer que la majorité est derrière elle et qu'on continue à la soutenir parce qu'elle mène des réformes importantes pour le pays. Et on ne va pas s'arrêter là parce que la situation politique est aujourd'hui difficile.
Mais certains expriment aussi leur colère et des voix émergent pour demander un changement de méthode. Il faut tout remettre à plat, lance un député sans majorité. On ne peut plus, comme avant, montrer les muscles.
Le gouvernement a donc engagé sa responsabilité avec ce recours au 49.3. Hélène Terzian du service politique à RMC. L'opposition a jusqu'à 15h20, c'est ça cet après-midi, pour déposer des motions de censure.
Exactement. Et au moins 2 motions de censure pourraient être déposées. D'abord, celle du Rassemblement National. Marine Le Pen, c'est la première à l'avoir annoncée immédiatement après le déclenchement du 49.3. Difficile en revanche d'imaginer qu'elle soit votée dans l'hémicycle. En réalité, tous les yeux, et surtout ceux de l'hémicycle, l'exécutif sont rivés sur la motion transpartisane qui se prépare du côté de l'UIOT, ce petit groupe de 20 députés indépendants plutôt centristes. La NUPES est déjà prête à s'y associer. Alors, est-ce que cette motion a des chances d'aboutir pour cela? Il faut que les voix de l'UIOT s'additionnent à celles de toute la gauche, du RN et au moins 30 députés LR. Là encore, difficile d'y voir clair à droite. Les chefs du parti s'y opposent. Une poignée de députés se désolidarisent. Pas sûr que cela soit suffisant toutefois pour que la motion soit votée à la majorité lundi si elle est déposée. Car si elle aboutit, le gouvernement le sait, il sera poussé à démissionner, encore plus fragilisé et alors poussé à démissionner.
Et en attendant la 9e journée de mobilisation des syndicats, la semaine prochaine, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande dans une circulaire au préfet de renforcer la protection des élus de la majorité. Une demande qui a été formulée par la chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger, redoutant des représailles. L'Assemblée nationale a voté hier soir tout autre chose, un durcissement des peines sanctionnant les intrusions dans les centrales nucléaires dans le cadre de son projet de loi de relance. La gauche redoute que ce soit un frein aux actions des anti-nucléaires. L'aventure européenne, je vous le disais, qui continue pour Nice en football, vainqueur 3-1 de Tiraspol hier soir, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Conference League. Maxime Tillette, racontez-nous cette belle soirée hier soir de foot à Nice.
Supporters et joueurs niçois savourent pour la première fois depuis 1960 leur équipe rejoint les quarts de finale d'une compétition européenne. Une fierté pour l'entraîneur adjoint Julien Sablé.
L'aventure continue, c'est le troisième quart de finale de l'OGC Nice dans son histoire, donc on est content d'écrire un bout de l'histoire.
Une qualification niçoise qui redonne le sourire au football français après les éliminations récentes de Paris, Monaco, Nantes ou encore Rennes. L'attaquant Gaëtan Laborde savoure.
Au final, nous on pensait surtout à notre performance et de passer, après forcément c'est positif pour tout le monde.
Et désormais qualifiés en quart de finale, les Niçois et leurs défenseurs Jean-Claire Todibo ne se fixent aucune limite.
On va essayer de rendre cette histoire encore plus belle et pas s'arrêter sur un quart de finale. Après, on va pas jouer la compétition avant l'heure, on prendra match après match.
On connaîtra tout à l'heure à 14h le nom du prochain adversaire des Niçois en quart de finale de cette Conference League.
Et Nice qui joue avec son milieu de terrain, Khéphren Thuram, un des trois petits nouveaux appelés en équipe de France de foot par Didier Deschamps pour les deux matchs de la fin du mois des Bleus.
Bah oui, il rejoint son frangin, Marcus. La fratrie et Thuram en équipe de France.
Troisième Thuram en équipe de France.
Oui, on va revenir sur cette liste de Didier Deschamps, cette fratrie Thuram. Tout à l'heure dans la Story Sport, ce sera avant 6h30, avant de retrouver Apolline pour Apolline Matin. Il y aura votre Story Sport évidemment sur RMC. Il y aura aussi Emmanuel Le Chypre pour le Chypre du jour. On va s'intéresser au rythme très inquiétant des vols de voitures en France. Une voiture volée toutes les 4 minutes en France. Emmanuel va tout nous dire dans le Chypre du jour dans quelques minutes. Mais évidemment, tout de suite à la une, Anaïs.
On va parler du 49-3 évidemment. Le jour d'après, la France est plongée dans une crise politique après le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites.
On y revient tout de suite avec Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, qui est en direct avec nous tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Charles Matin.
Vos réactions sur l'appli RMC, onglet Direct Studio après donc l'usage du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Julien nous écrit, j'ai presque fait une nuit blanche, je suis complètement fou depuis l'utilisation du 49.3. C'est une crise démocratique extrêmement grave. Philippe, lui, est indigné lui aussi. Il veut des actions communes contre le gouvernement. Il est temps de rentrer dans le dur, nous dit-il. Bernard nous écrit, le gouvernement a brillé par son incompétence, ses contradictions, ses mensonges. Et pour finir, eh bien, il passe par le 49-3. C'est vraiment dommage pour notre belle France. Il n'y a pas de vol de démocratie, nous disent Fabien ou encore Nicolas, car le 49-3 est prévu dans la Constitution pour jeunes. Ceux qui ont voté Emmanuel Macron au second tour étaient prévenus. Ils devraient se taire et assumer. Et pour Steph, Emmanuel Macron n'a pas eu le choix. N'importe quel président aurait fait la même chose. C'est simplement mal amené. Vous continuez à réagir sur Direct Studio, on vous attend.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h11, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est vous, Louis Marguerite, bonjour. Louis Marguerite, est-ce que vous m'entendez? Ah, et ben j'espère qu'on va retrouver très rapidement Louis Marguerite, le député Renaissance de Saône-et-Loire. Est-ce que vous êtes là, Louis Marguerite?
Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien, ça y est, vous êtes donc député Renaissance de Saône-et-Loire et vous n'avez pas eu l'occasion de voter hier sur la réforme des retraites puisque l'exécutif a opté pour le 49-3. Est-ce que c'est un échec de la stratégie d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne ? Est-ce que c'est en fait d'ores et déjà une défaite pour cette réforme des retraites ?
Défaite, pardon, j'ai pas entendu tout à l'heure.
Ah, je vous entends très loin, ouais, la ligne est mauvaise, on va essayer de vous rappeler. Louis Marguerite, tiens, en attendant, on va accueillir Younes au 32-16. Younes qui, lui, nous appelle de Toulouse. Bonjour Younes.
Bonjour. Bonjour.
Chauffeur poids lourd, c'est ça Younes, le veto sur la route, j'imagine, avec RMC. Tiens Younes, vous, comment vous avez accueilli cette annonce du 49-3 hier par Elisabeth Borne ?
Ben, j'étais indigné, c'est pas normal ce qui se passe en France en ce moment. Ben, comment on peut imposer sa voix sans que le peuple soit d'accord ? Selon les chiffres, on est 90% des actifs à refuser cette réforme. Ça fait 70% du peuple français qui est contre cette réforme. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on veut nous forcer la main et on nous prend vraiment pour du bétail, en fait. C'est mon impression. J'ai l'impression qu'on est du bétail et peu importe ce que vous disiez, que vous direz, eh ben ça passera quand même.
C'est la manière de faire, en fait, qui vous choque ce matin.
Ben, la réforme en elle-même, je suis pas d'accord. En tant que chauffeur poids lourd, on tire du poids, on est censé porter. Je vois mal quelqu'un qui a 64 ans tirer des palettes de plus de 500 kilos jusqu'à la retraite, quoi.
Oui, donc Younes, oui, vous nous dites, vous parlez d'un passage en force, d'une forme de mépris à travers le 49-3. Vous savez quoi ? On va poser la question directement à Louis Marguerite. On vous a retrouvé, député Renaissance de Saône-et-Loire. Louis Marguerite, là, il y a Younes, chauffeur poids lourd, qui vient de nous dire « Moi, j'accepte pas cette méthode, ce 49-3, ce passage en force sur une réforme aussi importante que celle des retraites. » Qu'est-ce que vous lui répondez, Louis Marguerite ?
Déjà, bonjour à tous, pardon des problèmes de connexion. Simplement pour dire que il y a eu tout un débat et bien sûr qu'il a été il y a eu plus de 100 heures de débat au Sénat, 80 heures à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de concertations. Évidemment, on aurait préféré un vote, bien évidemment, c'est ce que nous avons recherché jusqu'au dernier moment, jusque les 10 minutes qui ont précédé l'engagement de la responsabilité du gouvernement par la Première ministre. Et donc évidemment il y a eu ce débat et on regrette de pas être allé au vote, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un outil qui est à la disposition des oppositions et bien sûr elles vont l'utiliser, elles ne manqueront pas de le faire dans les prochaines heures, les prochaines journées, qui sera l'utilisation de la motion de censure. Et donc lundi prochain il y aura un vote qui permettra aux oppositions de se mettre à leur tour face à leurs responsabilités en censurant ou pas le gouvernement.
Et oui, donc, mais ce ne sera pas un vote sur la réforme des retraites, ce sera un vote sur la censure du gouvernement. Là on parle d'une réforme qui, Younes le rappelait, qui est largement rejetée par l'opinion dans les sondages, une réforme qui n'aura pas trouvé de majorité à l'Assemblée, il n'y aura même pas eu de vote. Est-ce qu'elle a encore un avenir cette réforme ? Est-ce qu'elle aura une légitimité même si s'il n'y a pas la motion de censure n'est pas votée ?
Moi, je note quand même que, bien évidemment, que ça pose des questions sur une réforme qui est difficile parce qu'elle concerne tous et qu'elle demande des efforts à beaucoup. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a intégré dans tout ce débat au cours de ces dernières semaines beaucoup de situations individuelles qui n'avaient pas pu être identifiées jusqu'à présent. Et notamment, c'est grâce au travail des parlementaires, à la fois de la majorité, mais aussi des oppositions. C'est en cela que c'est dommage que nous n'ayons pas eu un vote. Il faut sans doute continuer le travail, y compris après l'adoption de cette réforme. Et donc, bien sûr que le travail ne s'arrête pas là, mais je voudrais simplement dire que le texte a beaucoup évolué et que s'il n'y avait pas eu sans doute toute cette concertation et aussi les contestations, bien évidemment, que je respecte, elles se sont beaucoup exprimées dans le pays, le texte n'aurait pas aussi avancé qu'il ne l'a été dans sa version finale.
C'est un échec pour Elisabeth Borne, est-ce qu'elle doit démissionner ?
Non, mais Elisabeth Borne a porté très courageusement aux côtés des ministres Olivier Dussopt, Bruno Le Maire et beaucoup d'autres Gabriel Attal et cette réforme. Elle engage un outil qui est constitutionnel. Encore une fois, on aurait préféré être dans un autre scénario, hein, et on l'a dit et on le redit. Néanmoins, il faut utiliser cet outil constitutionnel et dont le pendant est bien la motion de censure. Donc c'est aux oppositions de s'exprimer. Elisabeth Borne a toute la confiance du président de la République et de toute façon, ce n'est pas à moi de m'exprimer sur un tel sujet.
Oui, mais Louis Marguerite, bon, j'entends là votre soutien à Elisabeth Borne, à la méthode du 49-3, mais donc vous dites à ceux qui nous écoutent, là, vous avez vu hier soir ces rassemblements spontanés, cette colère des Français, vous entendez ce matin le 32-16, les auditeurs d'RMC, vous leur dites, non, notre texte, il est parfait, il a évolué, on l'a façonné, et donc on va le maintenir coûte que coûte, il faut absolument que cette réforme passe.
J'ai pas utilisé le terme parfait. J'ai bien dit qu'il y aurait de toute façon du travail. Il y aura du travail aussi sur notre relation au travail dans une loi qu'on va porter à partir juste avant l'été avec Olivier Dussopt. Et donc, j'ai pas dit que c'était parfait et j'ai pas dit que le travail s'arrêtait là, bien évidemment. Il y a beaucoup de cas et vous savez, c'est toujours une somme de situations qui sont pour beaucoup difficiles. Donc, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a eu de la concertation et le texte, il a beaucoup évolué déjà depuis le mois d'octobre avec les concertations avec les syndicats. Il a continué à évoluer pendant le débat parlementaire et bien sûr, le travail continuera après adoption de cette réforme. Donc, bien sûr, elle ne va pas régler toutes les difficultés, les écarts de salaire, la question des petites pensions, la pénibilité des métiers. Mais en revanche, sur la méthode, il y a eu vraiment ce débat et le texte, il a évolué dans le bon sens, peut-être pas suffisamment, mais dans le bon sens. Et il faut qu'on aille au bout de cette logique.
Et tous vos collègues, là, au sein du groupe Renaissance, sont sur la même ligne que vous. Il n'y a pas un peu d'amertume, là, parmi vos collègues ce matin?
Mais on aurait tous préféré qu'il y ait un vote. Il faut évidemment, et bien sûr, on mesure les difficultés, la colère. Elles se sont exprimées à Paris, elles se sont exprimées dans beaucoup de grandes villes de France, chez moi, à Chalon-sur-Saône, à Mont-Soleil-Mines aussi. Et donc, bien sûr, et moi, je serai à l'écoute. Et c'est le rôle de chacun à son niveau d'écouter, de faire égo et de faire remonter aussi des choses qu'on n'a peut-être pas pu regarder ici ou là. Mais donc, bien sûr qu'on aurait tous préféré aller au vote. En revanche, il faut qu'on aille au bout d'une logique qu'on a portée et qui est celle de sauvegarder notre système de retraite. Et même si c'est une réforme difficile, même si c'est une réforme qui est impopulaire, il faut qu'on continue à avancer dans cette direction.
Aller au bout de la logique, vous nous le dites ce matin, Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, c'est votre ligne ce matin, et puis pour vous, la balle est dans le camp des oppositions avec la motion de censure, des motions qui doivent être déposées aujourd'hui puis examinées dans les jours qui viennent, on suivra ça de très près. Je vous remercie d'avoir été en direct ce matin pour réagir en direct sur RMC, et évidemment, eh bien vous qui nous écoutez, vous n'hésitez pas à prendre la parole ce matin au 32-16. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron a raison, comme le dit Louis Marguerite, de passer en force avec ce 49-3, de maintenir coûte cette réforme des retraites, ou au contraire, est-ce que cette réforme n'est plus légitime? Est-ce que ce 49-3 va renforcer la colère dans le pays? Ben, on va vous entendre ce matin au 32-16. Vous prenez la parole dans Apolline Matin, parce qu'Apolline arrive dans quelques minutes sur RMC. Mais avant cela, vos deux rendez-vous, évidemment, vous les attendez, ils sont là. Bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Dans le Chypre du jour, on va parler vol de voiture, et puis on va parler d'une nouvelle fratrie en équipe de France dans la Story Sport. Dans un instant, ce sera avec Antoine Martin. Salut Antoine.
Salut Charles, la 13e.
La 13e, ouais, cette fois, c'est la fratrie Thuram qui rentre dans la liste de Dédé. C'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h21. Bon réveil à tous sur RMC. C'est l'heure de retrouver Emmanuel Lechypre.
Le Chypre du jour.
Rebonjour Emmanuel, notre chiffre du jour, c'est plus 9%.
Et oui, les vols de véhicules ont augmenté de 9% l'an dernier en France. 133 800 cas recensés par l'observatoire Coyote Secure. Ça signifie un véhicule volé toutes les 4 minutes. C'est une véritable rupture avec la tendance à la baisse, voire à la stabilisation qu'on avait enregistrée ces dernières années. Alors parmi les régions les plus touchées, on retrouve sur le podium l'Île-de-France devant Provence-Alpes, Côte d'Azur, et puis Auvergne-Rhône-Alpes, troisième sur le podium avec une forte hausse, 11% des vols l'an dernier.
Et quels sont les modèles les plus volés?
Alors, les SUV restent les véhicules les plus recherchés par les voleurs, mais l'augmentation la plus significative concerne les modèles hybrides, dont le risque de vol augmente de 40%, particulièrement convoités pour leurs pots d'échappement qui contiennent des métaux rares. Autre cible privilégiée des voleurs, les véhicules professionnels, voitures de société et utilitaires ont un risque de vol deux fois supérieur aujourd'hui aux véhicules particuliers, sachant que dans les véhicules particuliers, les deux plus volés, c'est des véhicules de la marque Toyota, le SUV RAV4 et ensuite la Prius, qui était la première en 2021.
Ah, donc voilà, les deux premières places, même si ça switch entre la Prius
Exactement. Et
le RAV4 de Toyota. Et donc, je rappelle ce chiffre, un véhicule volé toutes les 4 minutes. Hein, ouais. C'est assez affolant comme chiffre. Et donc, ça repart à la hausse, plus 9%. C'était le Chypre du jour avec Emmanuel Lechypre. On passe à la Story Sport.
La Story Sport.
Ils sont désormais trois membres d'une même famille à pouvoir dire qu'ils ont été appelés en bleu.
Lilian, le papa, Marcus et désormais Kefren Thuram, 21 ans, appelé pour la première fois par Didier Deschamps.
Ça symbolise que pour l'instant je travaille bien et qu'il faut que je continue à travailler encore plus, toujours plus intelligemment. Mais franchement, je suis très content d'avoir été appelé pour la première fois. Et je suis assez fier, et surtout qu'il y a mon frère aussi. Donc franchement, c'est incroyable.
Ouais, il a l'air sympa, Antoine. Ce
oui, il a la classe.
Turab.
Il a du style et en plus, il est très bon, ce milieu relayeur de Nice. Il explose cette saison. 1m92, très élancé. Un style entre Paul Pogba et Patrick Vieira. Inépuisable travailleur sur le terrain et garçon humble grâce à son père champion du monde en 98, Lilian, qui l'a obligé à garder une petite voiture pour ne pas choper la grosse tête.
Bon, sa carrière, en tout cas, vers l'équipe de France, était toute tracée.
Pas besoin d'agent quand vous avez un papa légende du foot et un frère aîné qui a toujours cru en vous.
J'ai confiance en mon petit frère. Je dis souvent que c'est lui le plus fort de la famille. Mmh. Donc, sans lui mettre de pression, mais j'espère qu'un jour, il connaîtra l'équipe de France.
Ah bah oui, c'est réussi. Le parcours du cadet est linéaire, sélectionné dans toutes les équipes de France jeunes. Mais sa première apparition dans le groupe des A interroge Jérôme Rotten, extrait de Rotten sans flamme hier soir.
Bien sûr que c'est un bon joueur Kefren Thuram, mais tu peux te dire, ah ouais, mais il y a une relation particulière avec la famille Thuram. Et peut-être.
Je crois que c'est parce qu'il s'appelle Thuram qu'il est en équipe de France.
Non, mais tu peux te poser la question. Pourquoi Kefren Thuram, qui n'a pas de référence en Ligue des Champions, et c'est sa priorité à Didier Deschamps quand il sélectionne quelqu'un, ou de jouer dans un grand club à l'étranger, s'il n'y a pas ces deux choses réunies, pourquoi il l'appelle lui plutôt qu'un autre?
Alors, pistonné ou pas, Jeannot Rességuier tempère.
Kefren Thuram, mais ça n'engage que moi ce que je vais dire là, vient respirer un peu l'équipe de France, profite de l'absence de Pogba, profite de l'absence de Kanté pour voir ce qui se passe au château.
En tout cas, les amis du papa Lilian Thuram ont veillé sur Kefren. Thierry Henry l'a lancé à Monaco, Patrick Vieira l'a couvé à Nice. Maintenant, c'est Didier Deschamps qui le fait basculer dans la cour des grands. À lui désormais de se faire un prénom dans l'arène au Lyon.
La saga Thuram, on va dire comme ça, après le papa Lilian. Marcus et Kefren, les deux frangins, donc appelés en bleu par Didier Deschamps hier. C'était la story sport d'Antoine Martin. Oui, à lui de se faire un prénom. Elle a déjà un prénom, peut-être. Oui, elle incarne son prénom.
Apolline.
Et oui, Apolline, Estelle. Matin.
Olivier, c'est ça, c'est 13h RMC, c'est la famille.
Et oui,
ça
va, bonjour Charles. Apolline.
Bonjour à tous. Interview, événement ce matin, bien sûr, celle d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Ce sera sa première réaction. Il sera mon invité à 8h30. Première réaction après le 49-3 annoncé hier. 8h30 donc sur RMC et BFM TV. D'ici là, je vous attends, venez prendre la parole au 32-16, ce 49-3. Est-ce que c'est une victoire de la rue? Est-ce que c'est un échec politique? Est-ce que ça vous redonne envie de vous mobiliser? Ou est-ce qu'au contraire, vous faisiez partie de ceux qui disaient bon bah ça y est, il faut en finir, il faut passer à autre chose et donc vivement que cette séquence soit terminée. Dites-nous, eh bien, témoignez aussi de votre journée. Je peux vous dire qu'hier soir, moi j'ai traversé les rues de Paris, ça avait au minimum remis le feu aux poudres. Trois rendez-vous à noter ce matin. Parole à l'opposition à 7h10 avec Raquel Garrido, la députée La France Insoumise. La suite à l'Assemblée, motion de censure, avenir du texte, ça ce sera à 7h40 avec la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. Et puis la suite dans la rue, nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Benjamin Hamard de la CGT répondra à mes questions à 8h10. Bienvenue dans Apolline Matin.